Ah, c'est parfait. Bonsoir à tous et bienvenue sur Paris Central. Aujourd'hui, je me retrouve avec le remplaçant Basto, le remplaçant de, de Paris Central, et le frérot Gâteau, avec qui j'ai souvent de longs débats quand on parle football. Je suis content de l'avoir, donc vous allez voir, ça parle très très bien football. Aujourd'hui, il y a un live qui va être assez piquant avec l'actualité qui se passe au Paris Saint-Germain. On va d'abord faire un petit passif sur ce qui s'est passé sur la journée d'aujourd'hui avec Kylian. Ensuite, on va faire un petit focus sur Galtier. Après, on va revenir sur Mbappé. On va faire un petit débat sur Marquis Verratti. Ensuite, sur le fait que Neymar est invendable. Et après, on ira sur Nagelsmann. Alors, du coup, je démarre le pas avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, pour vous faire un peu le passif de ce qui s'est passé aujourd'hui, Kylian Mbappé a été mis par le club dans une campagne de promotion pour la campagne d'abonnement et de réabonnement du Paris Saint-Germain. Voilà une vidéo axée très ville de Paris avec Kylian Mbappé, des jeunes et Nuno Mendes. Et à la suite de ça, une ou deux heures après, on a eu Kylian Mbappé qui nous a fait un communiqué dessus pour expliquer clairement que ce n'était pas le Kylian Saint-Germain, que lui, ses droits d'image, etc. Donc on va un peu discuter sur ça. Je vais faire un tour des caméras. On va commencer par Gâteau, puis après on ira sur Basto. Du coup, Gâteau, qu'as-tu pensé de la journée d'aujourd'hui avec ce qui s'est passé sur Kylian Mbappé? Quel est ton avis?
Avant tout, bonjour, bonjour à tous, merci de m'accueillir évidemment sur Paris Central, c'est un réel plaisir. Par rapport à Kylian Mbappé, moi franchement cette communication est assez floue. Est-ce que il se plaint que son image a été utilisée à son insu? Est-ce que il a mal pris qu'il n'ait pas vu la vidéo pour terminer, pour valider avant qu'elle soit publiée? Est-ce qu'on lui a menti et on lui a dit que son image allait être utilisée pour telle orientation, c'est-à-dire une petite interview etc. et qu'on a pris les rushs pour faire autre chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que ça aurait quand même pu se régler en interne, à mon sens. Ce genre de choses-là, réglé par story, c'est déjà arrivé dans la saison, les stories avec Pivot Gang, etc. Ça fait du bruit, ça fait du bruit, ça fait pas du bien pour le Paris Saint-Germain. On n'est pas déjà dans une bonne position sportivement actuellement avec la défaite face à l'Olympique Lyonnais. Et on sait qu'en championnat, l'étau se resserre, donc faut faire attention. Mais ça, ce genre de choses-là, c'est pas bon. Et j'estime que ça aurait pu se régler en interne.
Bah moi je suis plutôt d'accord avec toi. Basto, t'en penses quoi toi?
Ça fait du bruit, mais c'est le but d'Mbappé. Hein. On sait que c'est pas la première fois, que ce soit au PSG ou en équipe de France, quand il a fait des tweets qui incriminaient Noël Legrette. Mbappé fait exprès que ce soit visible pour faire passer des messages. Peut-être qu'il fait passer des messages en interne sur son droit d'image qui n'était pas passé, parce que quand on communique en interne, il peut y avoir les mêmes erreurs. Alors que quand il le fait publiquement, il se dit bon bah là au moins tout le monde est au courant. Et là, on voit le PSG qui d'un coup panique puisqu'ils ont retiré la vidéo dans un premier temps. La presse nous communique que Nasser est furieux que la vidéo soit sortie, etc., etc. Donc Mbappé a réussi encore une fois son effet. Hein. Mbappé, quand il parle publiquement, c'est fait exprès, c'est volontaire. Je pense qu'a priori, il y a deux choses. Je pense que c'est ce qu'il dit lui, ses propos. C'est une interview lambda qu'on lui avait promis, donc ça a été détourné pour une campagne de clip de réabonnement. Et il anticipe aussi le fait qu'il puisse y avoir, on connaît ce vestiaire, des jalousies. Il hein, n'y a pas seulement Messi qui sûrement ne restera pas au club, il n'y a pas Neymar dedans, mais il y a aussi des Verratti, des Marquinhos et Capitaine qui ne sont pas dans ce clip. Et donc Mbappé est peut-être déjà en train d'anticiper en disant « c'est pas moi qui ai voulu mettre tous les feux des projecteurs sur moi ». Je le vois comme ça.
Moi je pense que je vais être un peu plus virulent que vous. Parce que voilà, moi j'ai beaucoup défendu Mbappé cette saison. Maintenant, comme je dis souvent, je ne peux pas défendre l'indéfendable. Aujourd'hui, on connaît tous les problèmes du Paris Saint-Germain. Donc ça veut dire que le poste de Mbappé, c'est un peu à l'image de notre saison. Maintenant, voilà, Kylian Mbappé, ce n'est pas son premier poste sur le club. Surtout cette saison. Ce n'est pas le premier et ce n'est pas le dernier. Et moi maintenant, j'ai un problème avec ça. Pourquoi j'ai un problème avec ça? Parce que déjà que ton institution est pas mal égratignée cette saison. Tu égratignes encore un peu plus, tu enfonces le clou, clairement. Moi, le truc qui me dérange avec ce poste, c'est que c'est de l'hypocrisie pour moi. Je l'ai dit ouvertement, c'est de l'hypocrisie. Pourquoi c'est de l'hypocrisie? Pour la simple et bonne raison qu'il fait cette communication uniquement parce que le club va mal. Si tout se passait bien, et je mets ma main à couper, vraiment ma main à couper, si tout se passait bien et qu'on serait encore en quart de finale et que la saison continuerait comme ça, je vous jure que ça ne l'aurait pas dérangé d'être le centre du projet, d'être l'image du club. Ça ne l'aurait pas plus dérangé que ça. Alors après, moi, comme je dis, sur le fond, vraiment, mais quand tu vas vraiment sur le fond du truc, il a raison. Quand tu mets un tel visuel, il faut que déjà le joueur soit au courant. Et il faut que ce soit préparé en amont. Il faut que le joueur voit le visuel pour moi dire ah ouais, je vois où je vais, où je vois où le club a envie d'utiliser mon image. Pas de souci. Ça, c'est une réalité. Maintenant, à partir du moment où tu mets le poste, à partir du moment où tu fais la publication, je suis désolé, tu fais ton communiqué, tu es en porte-à-faux. T'es en porte-à-faux. Pour moi, il n'y a pas 36 000 solutions. Même si tu avais raison au début, tu mets ton club dans une position compliquée et regarde la preuve, on en parle, tu donnes du papier à moudre. Je suis désolé, ça fait des années que tu demandes des responsabilités, ça fait des années que tu, plus ou moins, tu fais comprendre que tu as envie d'être la tête de ce projet. Maintenant, tu l'es. Donc, Kylian Saint-Germain, je suis d'accord avec lui, il n'a peut-être pas envie qu'on se dise « Ouais, mais tout ce qui se passe au club, c'est de sa faute. » Voilà, on sait que depuis quelques semaines, ça nous dit que ouais, Kylian Mbappé, il a mis Campos, il a mis un directeur de la communication, etc., etc. Donc, sur ça, il a raison de se dire que là, actuellement, on est en train de lui mettre le crash un peu sur le dos. Ok, très bien. Par contre, la manière de faire, clairement, pour moi, c'est tu craches à la gueule des gens. On te donne de l'amour, mais il ne faut pas non plus abuser de l'amour des gens. Là, ça commence à un peu trop. Et même, rien que le simple fait que tu parles de Kylian Saint-Germain, à partir du moment où tu as fait ton poste et que la vidéo est supprimée, bah, tu es dans le Kylian Saint-Germain. Ça veut dire que tu as parlé et donc les gens derrière se sont pliés. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, personnellement, ce communiqué, il casse la tête, clairement.
En sens, c'est pas forcément que le communiqué qui casse la tête. Le communiqué, c'est la représentation de la place de Kylian Mbappé dans le club. On sait qu'il y a la prolongation qui était quand même costaud, avec une place importante, avec tout ça. Qu'il a eu quand même un rôle important par rapport à l'aspect sportif, dès lors que maintenant c'est lui le leader d'attaque, c'est lui la tête de gondole. Et il est parti chercher ça, attention, il est parti, et il a mérité d'être la tête de gondole de ce club-là. Mais le fait est qu'il fasse ce poste et qu'après la vidéo soit enlevée pour être remis, tu sens qu'il a beaucoup trop d'influence pour une place de simple joueur. Même si c'est un joueur qui est extraordinaire, ça reste un joueur. Ça ne doit pas être un décideur. Ça l'est justement. C'est un décideur. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Mais ça ne doit pas être un décideur avec autant de pouvoir dans ce club-là. Tu ne peux pas mettre autant de pouvoir dans les mains d'une seule personne. Et surtout dans
D'un joueur.
Si c'est le président et qu'il agit comme un despote, à la rigueur, c'est son rôle de président. Et après, il dispatche comme il veut. Mais un joueur, non, ça va créer des jalousies. On a énormément de problèmes dans le club. On doit faire une refonte. Moi, je veux bien faire une refonte autour de lui sans problème. Mais il faut qu'on recommence à redispatcher les pouvoirs. Et c'est difficile parce qu'une fois que tu as un pouvoir, difficile de venir chercher dans la main de quelqu'un.
Bah oui, mais pour moi, tu as complètement raison. Là, je suis désolé, mais tous ceux sur lesquels j'ai pu tirer et puis dire ouais, vous abusez un peu, Kylian Saint-Germain, etc. Au final, ils ont eu raison. Là, tu as tellement de pouvoir que tu te permets le communiqué, moi comme j'ai dit, gère-le en off, Gâteau il a raison, gère-le en off, t'envoies un message, tu dis hey, les gars, là vous abusez, etc. Là vous commencez à déconnecter mon image. Ok, très bien, et là t'aurais raison. Mais là je suis désolé, tu vas beaucoup trop loin, tu te prends pour le calife. Et non, c'est pas possible, tu veux jouer de football, reconcentre-toi sur ton football.
Imaginons qu'Mbappé pensait à un départ cet été. Avec un clip comme ça, il est quand même mis en porte-à-faux, tu vois, par le club. Il est pris en otage. Après, on ne sait pas exactement, je ne sais pas quelles sont les volontés d'Mbappé, je ne pense pas qu'il partira cet été, mais on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Je suis un peu entre le cul entre deux chaises, en fait, entre l'amateurisme du club une nouvelle fois, encore plus depuis le départ de Jean-Claude Blanc, sur tout ce qui est communication, et tout ce qui se gère, je pense, maintenant. J'ai l'impression que tout le monde fait les choses dans son coin. Et que c'est un bordel son nom, que personne ne sait exactement qui fait quoi. Et le joueur, oui, peut-être que ça aurait pu se régler en privé. Mais en même temps, comme le dit quelqu'un dans les commentaires, c'est une communication publique qui répond au public. Ouais. Bon, j'ai du mal à me positionner, en fait. Je ne défends ni l'un ni l'autre.
Après, comme j'ai dit, sur le fond, je peux comprendre que ça l'énerve un peu, tu vois, qu'on le mette comme ça. En plus, même sur le clip, franchement, je l'ai vu. Moi, ma première impression, je me suis dit, le clip, il me dérange. Pourquoi il me dérangeait? Parce que je trouvais que c'était... En fait, c'est le timing, en fait. Le timing où tu fais une communication pro-Île-de-France, pro-francilienne, au moment où tu sais qu'il y a une grosse horde de supporters qui te réclament, avec le poste de Mathieu, etc., qui en font des débats, que ce soit sur les réseaux sociaux, etc. Donc moi, je trouvais que le poste était très communicatif. Maintenant, tu es la tête de gondole. Voilà, une campagne de réabonnement. En général, tu vises quand même les natifs de la ville. Donc forcément, tu vas mettre ceux envers lesquels les supporters vont le plus se représenter. Ça, jusque-là, je peux comprendre. De me dire que, ouais, tu vois, tu mets uniquement moi, après tu mets des jeunes autour, tu sais que c'est moi qui est là depuis plus longtemps, c'est moi l'ancien, donc tu mets un peu en porte-à-faux. Ok, très bien. Le communiqué, pour moi, non. Le communiqué, non. Là, tu te prends pour le calife. Et moi, ça me dérange. Clairement, franchement, je te dis la vérité, ce communiqué me fait chier. Il me fait chier. Il faut dire les choses. Il me fait chier. Tu redonnes encore du moule aux journalistes, de la merde aux journalistes, et on en fait un débat. Tu vois, là, ça fait 10 minutes qu'on est en live, on parle de ça. Normalement, on n'a pas parlé de ça. Tu vois ?
On n'a pas parlé de ça. On n'a pas parlé de ça. Et si on est parfois clément avec Kylian Mbappé sur certaines performances, ces temps-ci, les résultats ne sont pas bons, mais son attitude n'est pas bonne, son comportement, son lien avec les autres joueurs, t'as l'impression qu'il est saoulé. Non, faut faire attention. Et communiquer, c'est important. Ok, t'as un droit d'image. Ok, t'as signé des trucs avec le club. Mais nous, on n'est pas au courant de ça. Mais... on n'est pas au courant de ce que t'as fait, le secret de ta prolongation, on t'a promis tel et tel truc. Nous, on sait pas. Et on voit des choses, ça nous plaît pas. On est obligé de le dire.
Je vais revenir sur ce qu'avait dit Nasser lors de sa prolongation. Nasser, il a dit quoi ? Concernant les droits d'image. Il a dit que c'était impossible de donner 100% de ses droits d'image au Paris à Mbappé parce que le Paris Saint-Germain est un club jeune et qui donc il devait garder un pourcentage sur les images du club. On est d'accord, c'est ce qu'il a dit. Et donc par rapport à ça, il y avait une compensation financière qui devait justement compenser justement le degré d'image où Mbappé n'avait pas de regard dessus. Jusque-là, on est d'accord. Je suis désolé. Tu as signé un contrat, tu as posé tes initiales. T'as été compensé financièrement, tu peux pas venir parler et dire ouais mais je suis pas content de ce qu'on fait de mon image. C'est pas possible, tu as accepté ces conditions-là. Maintenant, là où je lui donne raison, c'est que le club, je suis désolé, mais ils ont fait la même chose l'année dernière. Vous vous rappelez quand Mbappé voulait prolonger, mais on savait pas, et qu'ils ont balancé le petit interview qu'il avait fait avec Neymar, oui, je vais gagner la Ligue des Champions avec Paris, etc. Alors qu'on savait pas à ce moment-là, c'est les prolonger. Ils l'ont déjà fait ce coup-là. Donc là, je suis d'accord avec lui, le club fait des trucs en douce. Et Kylian Mbappé a raison de dénoncer ça. Mais le communiqué, je suis désolé, c'est, tu donnes des balles aux journalistes pour te tirer dessus, tu crées un débat là où tu ne devrais même pas en avoir. Moi, pour moi, non, le communiqué, on ne peut pas donner raison à Kylian Mbappé. C'est pas possible, c'est impossible. Tu vois ? Voilà. Hey, pour moi, un joueur ne doit pas être au-dessus de l'institution.
C'est Galtier qui a appuyé sur le bouton play, comme ça on parle moins de lui. Et du coup, il met la pression sur Mbappé, tu vois. Il doit être content. On parle un peu moins de son départ aujourd'hui.
Mais c'est ça. Mais en plus, le timing, il me tue parce que hier, on a un article qui dit que oui, Nasser est arrivé, communication de crise, il veut remettre de l'ordre au Paris Saint-Germain. Avant-hier, on avait oui, Nasser est à Doha en train de réfléchir sur ce qu'il a raté au Paris Saint-Germain. Voilà, tu reviens à Paris, bim, allez, problème. En plus, là, tout à l'heure, le Parisien, ils disent quoi ? Ils disent que, je crois que c'est le Parisien qui dit ça, que Nasser est très contrarié par ce communiqué. Ah, mon pote.
Dryas qui est dans le com, il est passé à côté, je te l'avais envoyé sur WhatsApp, Dryas. Donc tu regardes ton WhatsApp, tu auras le communiqué d'Mbappé.
Voilà. Donc bah, je pense qu'on a fait le tour sur ce communiqué-là. Je pense qu'il n'y a pas plus de choses à dire. Maintenant, voilà, moi la seule chose qu'il faut dire encore, c'est que déjà, nous, en tant que supporters, on est le Paris Saint-Germain, non le Kylian Saint-Germain. C'est vrai que Kylian est la tête de gondole du club. Et que pour moi, on se doit de le défendre. Maintenant, on doit défendre quand c'est défendable. Là, c'est indéfendable. Pour moi, je ne peux pas le défendre. Je ne peux pas prendre sa défense alors que ce n'est pas possible. Maintenant, Kylian reste la tête du projet. S'il veut rester ou s'il veut partir, mais en tout cas à l'instant T c'est encore la tête du projet, donc on va le soutenir, mais pas sur ce truc là. Moi c'est le PSG avant tout. Voilà,
exactement.
Ensuite on va partir sur le cas Galtier. On va revenir un peu sur Galtier. On a un peu débattu un peu il y a deux jours sur Galtier. Là maintenant c'est un autre aspect de Galtier au PSG. Galtier isolé. Où sont Nasser et Campos ? Bah, c'est vrai que sur les dernières déclarations, on était revenu un peu sur le dernier live. On a plutôt l'impression que Galtier est isolé de par ses joueurs. Et en plus, par sa direction, j'ai l'impression qu'il est un peu lâché dans la fauve au lion et qu'il doit un peu tout gérer. Alors, ce n'est pas le meilleur coach, mais c'est vrai que la situation est très compliquée pour lui. Qu'en penses-tu, toi, Gato ? Est-ce que tu vois un Galtier isolé ? Est-ce que tu penses que le club a merdé un peu dessus ? Ou est-ce que tu penses que Galtier, c'est lui aussi qui s'est mis tout seul dans cette situation-là ?
Non, moi je pense pas qu'il soit mis tout seul dans cette situation-là, faut être honnête. Qu'on puisse se reprocher les limites tactiques, qu'on puisse se reprocher des attitudes. Une partie du vestiaire qui le lâche, ça je peux comprendre. Je pense que les jeunes qui puissent se lâcher comme ça, puisqu'il a tiré dessus sur les jeunes plusieurs fois, moi c'est pas quelque chose qui va me gêner, même si c'est le coach. Au-delà de ça, j'aimerais bien que la saison se termine bien, mais que les jeunes le lâchent, c'est pas quelque chose qui me gêne. Je peux comprendre, au bout d'un moment, les jeunes se concertent, ils doivent avoir leur groupe WhatsApp entre eux et se dire, vas-y, les gars, nous on fait notre truc, on va essayer de gérer, nous on est en début de carrière, ça peut être compliqué pour nous. Que les autres le lâchent, les leaders comme Messi ou quoi, tu sais qu'ils ont déjà quitté l'entraînement, ils ont fait ce genre de choses, c'est pas terrible. Et après, moi, ça c'est sur l'effectif, sur les joueurs, mais les dirigeants, ils sont où ? Comment est-ce que Campos, il a déjà déjugé Galtier dès lorsqu'il est rentré sur le match de Lille en criant et tout. Moi, je vois que non seulement il est dépassé par les événements et que tout le monde l'a lâché, mais c'est une situation qui est anormale. C'est une situation qui est normale parce que au bout d'un moment, même si le Paris Saint-Germain perd, même si on a des difficultés, même si le niveau de jeu il est anormalement pauvre, c'est pas Christophe Galtier qui est sur le terrain non plus. C'est pas Christophe Galtier qui fait des chèques. C'est pas Christophe Galtier aussi qui fait les communiqués, qui fait les vidéos. Donc il y a un problème au sein du club à tous les étages. Christophe Galtier en fait partie, mais de toute façon, j'ai sûr qu'il fera plus partie de ce club, même avant la fin de saison, tant pis pour lui. Mais quand même, qu'il soit tout seul qu'il soit esselé à ce point-là, non, c'est anormal. Et là, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute.
Je suis complètement d'accord avec toi. Basto, t'en penses quoi?
Déjà, Galtier a quand même une similarité avec ce qui s'est passé à Nice, hein, où il fait des bons premiers mois niveau résultat, mais ça a commencé à se détériorer. Puis une deuxième partie de saison qui est assez mauvaise, et avec un groupe qui lâche, des vestiaires qui lâchent, et où il n'est plus soutenu ni par Fournier, on sait qu'il a clashé avec le directeur, ni par Rivière qui était le président. Donc, ça fait 2 années de suite dans 2 projets différents, avec 2 vestiaires différents et des dirigeants différents. Et pourtant, d'habitude, Campos, on sait que ça avait bien marché avec lui à Lille. Où ça foire et où c'est un peu les mêmes critiques qu'on lui refait, mauvaise causerie, problème avec des jeunes, problème avec les cadres. On sait qu'à Nice, il y avait des problèmes notamment avec des gens, ça pouvait être Dante comme Todibo, donc tu vois des classes d'âge très différentes. Là, c'est la même chose, on sait qu'il y a des problèmes avec Ekitike, qu'il y en a avec Messi. Donc voilà, Galtier, 2 ans, 2 projets, donc là-dessus. Après, j'ai l'impression que Campos et Nasser sont déconnectés de la réalité. Quand on nous dit après Munich que quoi qu'il arrive, il ne sera pas en danger, et que même si on est champion, c'était la tendance, si on est champion, il partirait pour une deuxième année, c'est que le club ne voyait pas l'urgence, c'est que Campos soit prêt, c'est de la com, hein, évidemment. J'ai l'impression que Campos, il est plus en mode, là, il inonde un peu les papiers des journaux, en mode on va recruter ce que les supporters veulent entendre. Donc, on parle du projet francilien, etc., etc., qui séduit beaucoup de monde. J'ai l'impression qu'il est un peu il pense plus à sa tête, Campos, actuellement, qu'à celle de Galtier. Donc oui, on a chacun qui est de son côté, Nasser du sien, Campos du sien, Galtier qui se retrouve maintenant tout seul, lâché par tout le monde. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on attend dans ces cas-là pour le licencier dès maintenant et mettre quelqu'un d'intérimaire? Quel est le risque? On avait 11 points d'avance avant ces 2 défaites, on n'en a plus que 6, on joue Nice et Lens, et derrière, il y a un calendrier qui est favorable. Est-ce qu'on peut faire pire qu'actuellement avec des joueurs comme Danilo, hein, qui disent eux-mêmes que les joueurs ne respectent pas les positions et les consignes du coach? Je vois pas en quoi ça peut être pire de tenter un Zoumana Camara ou un Sacramento en intérimaire en fin de saison. Pour moi, là, le seul moyen de perdre le titre, c'est de continuer comme on fait actuellement avec un Galtier.
Bah écoute, moi sur le sportif, on est un peu revenu hier dessus. Donc je veux pas avant-hier, pardon, je vais pas revenir dessus. On a déjà dit ce qui se passait avec Galtier au niveau du sportif. Et je suis complètement d'accord avec toi, Basto. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, Galtier n'a pas les épaules pour Paris Saint-Germain. Il a été lâché par son effectif. Malheureusement, va falloir claquer la porte à la fin de saison. Ok, très bien. Maintenant, sur le sujet d'aujourd'hui, Galtier isolé, oui, c'est le cas. Il y a pas 36 000 solutions. Je suis désolé, mais il était dans la fauve au lion à chaque fois cette saison. Je pense que l'histoire du staff réduit de 24 joueurs, c'est une idée de Campos, c'est lui qui en fait la promotion, c'est sur lui qu'on tombe à partir de ce moment-là. Il y a eu quoi? Il y a eu les clashs avec les joueurs, le pivot gang, c'est lui qui a dû s'expliquer dans les médias. Alors quand il y a eu les véhémences de départ, Campos est parti faire une interview en catastrophe, etc. Ok, d'accord, très bien. Mbappé a dit après un match de Ligue des Champions, non, mais il n'y a pas de souci, tout va bien, je suis là, je suis content. C'est lui qui a dû gérer le truc, c'est lui qui a dû gérer l'effectif. À ce moment-là, je pense que déjà, il avait commencé à perdre son effectif parce qu'il avait perdu les deux de devant qui sont Messi et Neymar, vu qu'il a redonné à Mbappé. Les mecs étaient un peu lésés, et donc forcément, ils avaient quand même beaucoup de soldats dans cet effectif-là. Au final, il a commencé à perdre l'effectif de bout en bout. Ok, d'accord, très bien. Maintenant, il y a plein de choses sur la saison qui te disent que Galtier, il est quand même assez isolé. À chaque fois qu'il y a une crise sportive sur le terrain, ok, très bien, les crises tactiques, c'est lui qui parle. Mais toutes les crises en off, le capitanat de Kipembe, où ils ont mis Mbappé deuxième, qui après sont revenus. Non, mais non, il y a plusieurs vice-capitaines, ce n'est pas lui. Après, je détermine. C'est faux. À partir de ce moment-là, ils avaient déterminé que le vice-capitaine était Kylian Mbappé. Ok, très bien. Ils sont revenus quand ils ont vu le poste de Kipembe. Et c'est encore Galtier qui a dû s'expliquer. Et tu vois, sur toute la saison, tout ce qui a pu se passer, c'est Galtier qui s'est expliqué. À aucun moment, tu as eu une communication de Campos. Nasser, bon, il est président, ok, il parle pas beaucoup. Mais à aucun moment, tu l'as senti appuyé par sa direction. Et ça, c'est une réalité. Galtier isolé, oui, pour moi, c'est vrai.
Bah, tu as eu Campos, oui, qui a fait 2 interviews post-mercato d'été, post-mercato d'hiver assez lunaire d'ailleurs, mais donc qui rajoutait un flou ambiant. Après, Galtier, il est tombé dans l'erreur au départ d'essayer d'être, j'appelle pas ça franc parce qu'il est assez démagogue dedans, tu vois, dans une espèce pas de langue de bois. Et il s'est enfermé là-dedans. Et ça commence avec le char à voile, bon ça c'est hors sportif, etc. Mais par exemple, Kimpembe, c'est lui qui rattrape, mais une erreur que lui-même fait 3 jours avant, une erreur de com. Il en a fait de plus en plus. Il n'a pas été, comme tu le dis, soutenu par des déclarations inexistantes de Nasser qu'on n'a pas entendues. Il doit préparer son interview au Parisien de juin ou juillet, je pense, actuellement. Ou de Campos, la dernière fois qu'on l'a vu depuis son interview, c'est effectivement pour prendre sa place sur le terrain contre Lille. Donc c'est compliqué, là ça a brisé. Bah, d'ailleurs, ce contre Lille, c'est sûr que la légitimité de Galtier, c'était fini. À partir de ce moment-là, je pense qu'après Lille, c'était... Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux être crédible auprès de tes joueurs, auprès du public et auprès de la presse après une scène comme ça?
Et je suis d'accord avec toi, Dreyas, hein, tout n'est pas de sa faute, bien entendu. Hein. C'est ce que j'ai dit, tout n'est pas forcément de sa faute, même sur le sportif. Hein, sur le recrutement, c'est pas forcément que de sa faute. Sur l'effectif où il n'avait pas les bons profils, c'est pas forcément que de sa faute. Maintenant, moi, là, justement, ce que j'aimerais dire, c'est que sur le fait qu'il soit isolé, je suis désolé. Mais par exemple, là, il va devoir gérer le poste de Kylian Mbappé. C'est sûr que la question va être posée en conférence de presse. Normalement, il doit avoir le soutien de sa direction. Quand il a eu, quand là actuellement Messi, il monte clairement du foutage de, bref, vous avez compris, sur le terrain. C'est pas forcément que à lui de gérer ça. Il doit avoir une direction derrière qui gère ça. Donc je suis d'accord avec toi, Dreyas. C'est pas forcément uniquement sa faute. Moi, je parle du sportif. Moi, je parle du terrain. Bon. Tactiquement, pour lui, c'est pour moi, c'est lui. C'est lui qui est fautif. Maintenant, sur tout le reste, non, il est pas fautif.
En vrai, par exemple, sur Mbappé aujourd'hui, normalement, il doit y avoir un communiqué du club avant que ce soit Galtier qui se retrouve à communiquer oui. Demain là-dessus. Il y a quelqu'un d'autre qui doit intervenir avant lui, ça c'est sûr.
Parce que les gars, par exemple, enfin, moi, je veux bien que le club soit décrié, qu'il y ait une mauvaise gestion sportive, que tous les autres supporters et les observateurs de tout club différent disent que ouais, il y a du matériel de fou. Il y a tout pour réussir et vous faites n'importe quoi. Ça, on en est conscient. Ok, c'est la vérité en plus. On ne peut pas nier cette vérité-là. Mais soit vous virez Christophe Galtier parce que vous n'en voulez plus, soit vous allez complètement avec lui. Là on ne peut pas faire une zone grise comme ça aussi longue et les gens ils sont là, ils sont dans une mauvaise position parce que ça crée trop de discorde dans le club. Ça crée trop de discorde dans le club et justement, on en a là encore en train d'en parler. Si nous, on en parle, c'est que d'autres personnes en parlent aussi. Les joueurs ils savent pas où se mettre parce que dès là comme j'ai dit si les jeunes le lâchent c'était logique parce que bon les jeunes ils doivent en avoir marre de lui ils se disent waouh regardez comment il nous traite et tout en conférence de presse il nous appuie dessus il nous envoie au feu parce que les jeunes aussi ils ont une lecture aussi hein. Ils vont sur les réseaux sociaux il y a des gens qui leur rapportent mais que ses propres employeurs le lâchent comme ça bah en fait voilà
forcément ils sont dans l'après. Ils sont tous dans l'après. Chacun veut défendre sa petite paroisse et chacun est en train d'essayer d'imposer le futur du club l'année prochaine. Campos essaie de sauver sa peau avec tel coach, Nasser, je ne sais pas ce qui se passe, il doit avoir 10 000 entourages, etc. Etc. Donc, c'est... On connaît les fins de saison post-élimination. Hein. C'est pas comme ça.
On est parti en demi-finale de Ligue des Champions, il y avait quand même des dramas cette saison-là, la fin de saison. Donc il y en aura toujours dans ce club-là. De toute façon, on connaît, hein, à partir du moment où tu ne gagnes pas la Ligue des Champions, c'est une saison ratée de toute façon avec les médias ou autres. Maintenant, sur les jeunes, pour moi, Galtier, il est complètement porte-à-faux. Je l'ai répété dans le dernier live, je suis désolé, mais moi, la déclaration d'après-match contre le Bayern, où clairement il charge El Shaddai, voilà, c'est pas Campos qu'il a fait. Et là, je suis d'accord. Maintenant, sur plein de choses. Voilà, normalement, il a le soutien de sa direction. Je te prends l'exemple de Graham Potter à Chelsea. Je te prends l'exemple de Nagelsmann au Bayern. Mais jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour, il avait la direction qui était derrière lui. Carlo Ancelotti, on dit qu'il est sur les départs. On dit que vas-y, que le Real a envie de se débarrasser de lui, que les supporters ont envie de se débarrasser de lui. Mais jusqu'à hier, encore hier, la direction est toujours derrière lui. Si demain, Carlo Ancelotti veut bench Karim Benzema, la direction dira, bah, écoute, même si on le fait partir en fin de saison, réglez ça entre vous. C'est lui qui gère le sportif, c'est pas nous. Et donc, tu vois, ça c'est la direction des grands clubs. C'est-à-dire que même jusqu'à ce que tu pars, par exemple, on est le jeudi 6, si tu dois partir le vendredi 7 avril, bah jusqu'au vendredi 7 avril, au matin où tu pars, tu seras soutenu par ta direction. C'est ça, un club. Tu ne peux pas te dire qu'une fois que le mec est dans la tourmente et que tu vas t'en séparer, dans tous les cas, à la fin de saison, bah je le laisse. Non, c'est pas possible. C'est pas possible.
C'est donc ça qu'il faut recréer. Et il y a eu ce truc-là au Paris Saint-Germain où, à la rigueur, que tout le monde aille vers l'avant. Il y en a un qui veut aller en avant, un petit peu à droite, l'autre un petit peu à gauche. C'est à peu près gérable, avec des discussions, avec des choix tactiques, où non, là je t'arrange, là tu vas jouer à gauche à ce match-là, après on fait un roulement, là t'es pas titulaire, mais voilà. Il y a des discussions que c'est possible. Mais si tout le monde veut aller l'un à gauche, l'autre à droite, comment veux-tu aller avancer, reculer en même temps? C'est pas possible. C'est pas
déjà,
possible. Donc
déjà,
faut, il
sur
faut.
Le terrain. Déjà, t'as déjà ça sur le terrain. En plus, tu l'as de manière directionnelle, c'est relou. Hein.
C'est ça, donc il faut à minima, hein, pour qu'un club fonctionne, juste il y a un club. Hein. Moi, je veux retrouver un esprit club. À minima, faut qu'il y ait une union et qu'on puisse avancer. Alors, qu'on avance doucement ou pas, je pense que le mieux, c'est de faire une refonte, une restructuration déjà absolument, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Et je pense que déjà, le noyau dur de la direction, il faut déjà l'identifier. Qui fait quoi dans ce club?
Ils savent même pas eux-mêmes. Mais ils savent même pas eux-mêmes qui fait quoi. Il y a trop de monde, il y a trop d'intermédiaires. Ils se connaissent pas tous, c'est sûr. Il y a une nébuleuse qui est de plus en plus grande. Donc.
Bah, à un moment, va falloir que. Bon après, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, un petit aparté. La vision à long terme du club, j'arrive à la voir, j'arrive à cibler où le club a envie d'aller. Par contre, à court terme et moyen terme, c'est tout le monde est lâché dans la fauve au lion. J'ai l'impression qu'il y a la devise diviser pour mieux régner. Qui est né au sein du club et qui continue, qui persiste avec j'ai l'impression, une sphère directionnelle, un cercle autour de Nasser qui a envie de diviser, que ce soit les joueurs, que ce soit les coachs et la direction sportive, etc., pour un peu mieux contrôler les gens. C'est une réalité, tu ne peux pas laisser, en étant un président de club, laisser ton club à l'abandon comme ça, que les joueurs fassent la loi, que les coachs soient complètement esselés, que les coachs font n'importe quoi, mais il n'y a personne qui leur dit, que le directeur sportif gère complètement mal les choses et que personne ne lui dit rien, on ne sait même pas où on va à court terme. Non, là, ce n'est pas possible. J'ai ce commentaire-là que j'ai fait monter de Franck Durand, qui est un aficionados qui nous suit depuis très longtemps. Supporter de ce club depuis 87, ultra dans les années 90, Carsu d'Auteuil. Ce club est toute ma vie, mais aujourd'hui, je ne sais plus quoi dire, je suis député. Moi, je suis là depuis 2000-2001. Et c'est vrai que même moi, ce club aujourd'hui, déjà, il ne me représente pas. Mais bon, j'aime ce club, donc je serai toujours derrière. Ce n'est pas le souci. Mais c'est vrai que ce club ne me représente pas, je ne veux pas dire soit au niveau des joueurs, mais que ce soit en termes d'institution, en termes de personnalité de club. Bah, mine de rien, heureusement que moi, je suis quelqu'un qui est en amour et très loyal et qui va jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Sinon, je serais déjà parti parce que franchement, je suis dégoûté par ce qui se passe. J'en suis même arrivé à me dire, je vais boycotter la fin de saison parce que j'en ai marre de voir ce qui se passe.
C'est une phase pire que le dépit, c'est la résignation. C'est après, voilà. Le dépit. C'est voilà. le dernier palier.
Voilà. Bah, du coup, vous avez encore des choses à rajouter sur le fait que Galtier soit isolé, sur Nasser et Campos, ou on passe au sujet suivant?
C'est bon pour moi.
Non, c'est bon.
Sujet suivant. Ok. Alors, le sujet suivant. Bon, on va revenir sur Mbappé, mais là, on va aller sur du sportif. On va revenir un peu sur le terrain parce qu'on va un peu trop sur la communication autour, etc. Alors, on revient sur le football pur. Mbappé, qu'est-ce qui lui arrive actuellement? Est-il trop fatigué? Est-ce qu'il a trop de responsabilités? Est-ce qu'il est lassé de l'effectif? On ne sait pas parce que sur le terrain, je suis désolé, mais depuis le retour de la Coupe du Monde, Kylian Mbappé, il y a deux matchs où vraiment je l'ai senti exceptionnel. C'était contre l'OM et contre le LOSC. Mais sinon, sur tous les autres matchs, et encore même le LOSC, vraiment même le LOSC, c'est vraiment gentil, tu vois. Mais sur tous les autres matchs, il alterne entre le bon, le très bon, le moins bon et le très mauvais. C'est-à-dire que là, c'est la chute libre. Entre les deux dernières saisons qu'il nous a postées, post-Final 8, ou au début de saison avec Tourelle, il a du mal. Et après, il remonte. Et clairement, il est dans des stats exceptionnels. La saison dernière, clairement, il survole le football, que ce soit de la Ligue 1, que ce soit le Paris Saint-Germain et le football mondial. Le début de saison, où on s'est compliqué, mais clairement, il fait preuve de talent. Et là, actuellement, il met plus un pied devant l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez qu'il est trop fatigué ou est-ce que vous voyez autre chose, vous?
Moi, je vois autre chose. D'ailleurs, il a été bon contre les Pays-Bas avec l'équipe de France, hein, avec deux buts, une passe D. Il a été excellent. Je vois autre chose qui est que Mbappé, dans un système à 5, ça correspond à toutes ses périodes creuses, que ce soit en équipe de France à l'Euro 2021, que ce soit en début d'année avant son fameux pivot gang où il y a ce changement de système, on passe à 4 et il est bon. Et là, bon, il y a eu Brest, son dernier bon match, où il marque et où il est bon. Et depuis, on ne joue qu'à 5. Et ça correspond de nouveau à une période creuse. Il a un joueur de moins au milieu pour le servir dans la profondeur, même si nos milieux jouent plutôt latéralement. Mais bon, on a quand même un joueur de plus derrière le ballon. Et surtout, il ne trouve pas sa place. Il trouve beaucoup moins sa place dans ce système. Je le disais déjà en octobre, et force est de constater qu'on le revoit actuellement. Il n'y a pas que ça, hein, c'est pas qu'un côté système. Il est moins bien puisqu'on traîne les occasions qu'il rate, que ce soit à 5 ou à 4, il doit les mettre. Donc, il y a aussi un coup de moins bien, sûrement mental, sûrement de fatigue, parce que comme je dis, quand il revient en équipe de France, il retrouve d'un coup plus de fraîcheur. Donc, il doit y avoir de l'usure comme tout le monde au PSG, mais j'ai l'impression que ce système n'est pas fait pour lui.
Je suis d'accord avec toi. Gâteau, t'en penses quoi?
Moi, il y a un truc qui me gêne profondément, parce que on nous dit oui, le système n'est pas fait pour lui, attention, tout ça. Très bien, c'est vrai que le système n'est pas fait pour lui. Mbappé, sur un 4-3-3 en ailier gauche, ce serait très bien. Sur un 4-2-3-1 avec deux gros 6 derrière lui, il pourrait très bien s'amuser. Voilà, avec son faux pied à gauche, en rentrant sur son pied droit, pour en mettre des frappes, toucher son numéro 10, toucher son 9, il aurait une super activité. Le système à 3 défenseurs ne lui correspond pas puisque offensivement on manque de lien entre la défense et l'attaque. Ça c'est une chose. Le milieu de terrain n'est pas assez garni aussi pour pouvoir alimenter Kylian Mbappé, ça c'est une deuxième chose. Mais qu'est-ce que les gens font sur le terrain aussi? Qu'est-ce que Mbappé fait sur le terrain? Quand tu as la responsabilité de jouer sur le côté, c'est lui qui a demandé de jouer sur le côté. Quand il faut jouer sur le côté, il faut faire des appels dans le vide. Il faut pouvoir faire des appels pour donner des solutions. Il faut pouvoir se sacrifier aussi. Tu ne peux pas avoir fait un appel et exiger qu'on te passe le ballon. C'est le problème des statuts qui fait qu'aujourd'hui, si tu joues au football avec des statuts et que les gens sur le terrain, les circuits de passe ne sont pas respectés via les solutions primordiales, mais les solutions des statuts, et ben au bout d'un moment, ça fait que les gens sont usés. Tu ne peux pas avoir des porteurs d'eau derrière toi et toute la responsabilité du jeu offensif sur toi, parce que à partir du défenseur central, le jeu offensif, il commence. C'est pas juste l'attaquant qui attaque, les défenseurs qui défendent. Non seulement il ne défend pas, et donc ça peut poser problème si tu as deux ou trois joueurs comme là avec Messi et parfois Neymar, même s'il n'est plus sur le terrain, mais quand tu as deux joueurs qui défendent absolument pas, qui ne veulent pas faire 3 mètres de pas de côté pour gêner les relances, c'est pas possible. Donc si tu en as un, à la rigueur, c'est Mbappé, ça peut aller. Mais si offensivement on ne fait pas les choses correctement non plus, parce que je vous dis, il se plaint là, en gros il se plaint, des fois il est saoulé, on voit son attitude, son langage corporel qui est vraiment pas. On voit que s'il n'est pas au beau fixe, on voit qu'il n'est pas content, on le sent. Mais la direction sportive, elle a été amenée par qui? C'est là le problème aussi. Oui, parce que t'es pas content sur le terrain, t'es pas content des joueurs qu'il y a, mais qui a fait en sorte que le directeur sportif arrive et qui a fait en sorte que lui-même amène ces joueurs-là? Il est dans l'équation. C'est pas lui tout seul, bien évidemment, il n'a pas
Lui a
sorti le
démenti qu'il
chéquier.
avait choisi Campos, mais bon, après,
Waouh,
on sait très bien les liens avec
waouh.
Campos à Monaco, c'est
Voilà,
sûr, mais
c'est ça qui nous pose
désolé,
problème.
mais
Encore une fois,
il
il
n'y a
faut de
pas
la
de fumée sans
clarté.
feu. Après, même si je trouve que quand même, c'est abusé de dire que c'est lui qui a tout décidé au club, etc. Je pense que c'est un peu grossi par les journalistes, mais bon, c'est très bien pour vendre du papier. Maintenant, dans la réalité des choses, il y a quand même, voilà, Leonardo qui est viré alors qu'il est en train de mettre en place un projet. Même si le projet allait peut-être foncer dans le mur, je ne sais pas, mais on sait très bien qu'il y avait des clashs avec Leonardo. Derrière, on te met Campos, on te met le directeur de la communication. Donc oui, je pense qu'il y avait, il y avait, je
Après.
pense que ça faisait partie des prérogatives, mais après le club lui a donné aussi. Donc,
Puis
voilà.
dès fin août, il n'est pas content par contre du mercato. Hein, je me souviens de
Ah bah oui.
cette
Ah mais après voilà, moi je
la
ne
tête.
veux pas aller dans le sens personnel comme tous les médias à dire
Oui.
oui, mais Mbappé, c'est lui qui décide de tout. Ça c'est des bêtises. Parce que si c'est lui qui décidait tout, je pense pas que le mercato aurait été comme ça. Mais c'est pas lui qui décide de tout, hein, faut pas non plus dire des bêtises. Mais voilà. Il a quand même un certain pouvoir. Mais là, on revient sur le sujet initial. Moi, vraiment, sur le jeu, juste Gâteau, je pense que tu n'avais pas fini. Je te laisse finir.
Non, je disais que quand tu as la responsabilité de jouer ailier en ayant l'objectif d'être le leader d'attaque et t'as accompli le statut, tu l'as eu le statut, tu as rempli les choses pour avoir ce statut. Maintenant que tu portes l'attaque en jouant ailier gauche, c'est pas juste demander la balle dans les pieds et venir faire des différences ou demander la balle en profondeur. Il faut faire des appels dans le vide. Il faut de l'équilibre. Il faut de l'équilibre dans cette
Après,
équipe.
le problème, c'est que s'il fait des appels dans le vide avec le seul autre point d'appui qui est Messi qui décroche à chaque fois au milieu de terrain,
Ah
c'est
bah oui.
compliqué parce qu'il est ailier gauche, mais à la fois neuf. Tu le vois en équipe de France quand tu as Giroud puis Kolo Muani, c'est sûr que tu as un autre, deux points d'appui différents. Un qui va prendre l'espace qui est Kolo Muani, qui permet d'embarquer des joueurs et libérer de l'espace à Mbappé, et un qui est Giroud qui a un point fixe. Là, c'est compliqué quand même. En 5-3-2, il est à la fois ailier gauche, à la fois attaquant, mais il n'y a personne devant quand il est ailier gauche, donc il doit y aller. Enfin, on en revient à ce
C'est
qu'on a dit, de
galère,
toute façon,
c'est galère.
cet effectif n'est pas cohérent, mais ça c'est un droit qu'il faut reprendre aujourd'hui.
Après, vous avez résumé pratiquement le fond de ma pensée. Moi, je suis complètement d'accord avec Gato. On en a souvent parlé dans les spaces, les histoires des appels à vide, etc. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, je suis désolé. Hein, vous regardez le match de Paris l'année dernière contre le Real, au match aller, où tu vois des prises à deux, voire trois sur Vinicius. Tu avais
Ouais.
Danilo, Marquinhos et Hakimi. Tu regardes Mbappé sur tous les matchs, que ce soit en Ligue 1 ou Ligue des Champions, c'est exactement ce qui lui arrive. Il y en a un qui est au marquage individuel de lui. Tu en as un autre qui va venir couper les lignes de passe avec le porteur du ballon et Kylian Mbappé. Et tu en as un troisième qui, potentiellement peut venir resserrer sur Kylian Mbappé. Je ne sais pas si vous vous rappelez une scène, je ne sais plus c'était contre quelle équipe en début de saison, où tu as 6 joueurs qui ferment la porte à Kylian Mbappé. Tu vois, tu as 6 joueurs, je ne sais plus c'était contre quelle équipe en Ligue 1. Donc ça, ça existe, c'est réel. Bah, en même temps, les gars, je suis désolé, mais t'es tellement fort, c'est logique que les équipes en face vont mettre des plans anti-Mbappé. Donc sur tout ça, je suis d'accord avec vous. Maintenant, maintenant le vrai truc, je suis désolé, mais il y a des choses qui vont... Il y a peut-être la frustration de la Coupe du Monde, la finale de Coupe du Monde perdue, etc. Je suis d'accord. Il y a les frustrations de l'effectif. Mais c'est vrai qu'il y a un Mbappé. Moi, il n'y a pas que ça qui me dérange aujourd'hui. Les appels à vide, d'accord avec Gâteau, mais il n'y a pas que ça. Sur les premiers appuis, sur la manière de déclencher les courses, sur les crochets qu'il met, sur lorsqu'il reçoit le ballon, tu sens qu'il a les jambes très lourdes et que physiquement, il n'est pas au mieux de sa forme. Alors, est-ce qu'il a besoin de repos? Est-ce qu'il a besoin de se déconnecter du foot? Est-ce que peut-être il a besoin de... Il y a plein de circonstances qui peuvent expliquer ça. Il y a aussi l'équipe qui, clairement, tourne beaucoup moins bien. Là, aujourd'hui, on est vraiment sur un effectif où tout le monde fait à sa sauce, tout le monde fait ce qu'il veut, etc. Ok, très bien. Le système aussi, où j'étais d'accord avec Basto, c'est vrai que lorsqu'on joue à 3 derrière, avec un double pivot, etc., Kylian Mbappé est beaucoup moins servi, vu qu'il doit quand même repiquer, il est censé repiquer dans l'axe. Et c'est vrai que là où Kylian Mbappé est très fort, c'est lorsqu'il démarre du côté pour repiquer dans l'axe. Là, il est vraiment très bon. Dans un système en 3-5-2, c'est vrai qu'il doit être plus souvent axial que excentré. Et donc là, c'est vrai que Kylian Mbappé, lorsqu'il est axial, on l'a vu contre City, on l'a vu contre d'autres équipes, c'est plus compliqué pour lui. C'est vrai. Ça, c'est une réalité. Mais il y a plein d'autres solutions. Il y a plein d'autres choses qui doivent être mises en place, qu'il a réussi à mettre en place la saison dernière lorsque on jouait avec un autre système. Et même quand on passait à 3 derrière, il arrivait à faire des différences. Au début de saison, il arrivait. Et là, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué. Après, voilà, ça ne fait pas un mauvais joueur. Il est toujours un très très bon joueur. Il est mieux muselé que la saison dernière. Ça aussi, c'est des choses à prendre en compte. Mais force est de constater qu'à l'instant T, il y a un problème Kylian Mbappé et ça se voit sur le terrain et ça se ressent aussi dans sa communication, encore une fois.
Et surtout que on peut dire tout ce qu'on veut sur Mauricio Pochettino, ou comme j'aime bien l'appeler, Maurice Lapochette. Mais Maurice Lapochette, il a fait énormément progresser Kylian Mbappé.
Bien sûr.
Notamment, il a exploité en très peu de temps, il a exploité pleinement les qualités de Kylian Mbappé. C'est-à-dire que c'est un super contre-attaquant et c'est un super joueur dans l'explosion à la vitesse, et il prend n'importe qui en vitesse. C'est pas le plus technique. Attention, techniquement, il s'est amélioré aussi. Techniquement, dans les petits espaces, il s'est amélioré, mais c'est pas le meilleur. C'est pas là où il est le plus dangereux. Donc évidemment, il faut aussi jouer avec les qualités des joueurs. Et là, ce qu'on voit là, c'est qu'on ne joue pas avec les qualités de première de Kylian Mbappé. C'est bien ça le problème. Donc aussi, le coach, il est mis en responsabilité. Mais comme on sait que le coach, il est contraint par des ordres et tout ça, est-ce que lui-même, il est réellement responsable? C'est ça le problème.
Mais il y avait Mauricio Pochettino qui, pour moi, lui a fait passer un step en termes de finition. Il y a, même depuis qu'il est arrivé, on l'a senti directement en confiance. Il y avait le jeu de la transition rapide qui avait été mis en place par Pochettino et qui lui réussissait plutôt bien. Les contre-attaques étaient mieux amenées aussi avec Kylian Mbappé. Et puis surtout, moi, ce qui m'avait marqué avec Pochettino, c'était la finition. Kylian Mbappé, il avait une meilleure finition. Aujourd'hui, je suis désolé, mais là, depuis le retour de la Coupe du Monde, je peux te sortir 10 actions où il reçoit un très bon ballon de Messi et il croque devant le but.
Je peux rien qu'à vrai que contre j'étais Rennes. J'étais au rang 3 contre Rennes. Et d'ailleurs, tous les supporters parisiens, je tenais à vous présenter mes excuses parce que je suis le chat noir du PSG. j'étais en vacances. Depuis que je suis revenu de vacances, PSG, ça va pas.
Donc, tu vois, en plus, je l'ai dit la dernière fois, enfoiré. Ouais. Mais tu vois, par exemple, je te prends l'exemple de Rennes parce que c'est le dernier match que j'ai en tête, et Lyon aussi. Mais par exemple, Rennes, en première période, il a 3 occasions nettes de très bons ballons qui sont donnés par Messi. Soit il bute sur Mandanda avec une frappe, je n'ai pas compris pourquoi il ne la croise pas, il la met en plein gardien. Soit il vise les pigeons, soit il vise la tribune, peut-être quelqu'un qui l'avait insulté ou autre. Tu vois, mais c'est pas pour, tu vois, je dis ça sur le ton de l'humour, c'est pas pour y tirer dessus, je n'ai pas que ça à faire. Tu vois, mais c'est vraiment pour parler uniquement football. C'est vrai que sa finition, cette saison, je la trouve plutôt en dents de scie par rapport à la première partie de saison. Voilà, la finition, c'était un peu compliqué, mais voilà, en général, quand il avait une occasion, il la mettait au fond. Là, j'ai l'impression qu'il pêche physiquement, donc il pêche mentalement, et donc sa finition, voilà, il est beaucoup moins agile sur les premiers appuis, il est beaucoup moins tranchant dans la surface de réparation, et ça se sent, ça se ressent, ça se voit. Et ouais. Oui, et par contre, juste pour répondre à ce que tu disais dans les commentaires, non, Kylian Mbappé n'est pas surcoté. surcoté, un mec qui te fait une saison à 56 buts ou en 56 matchs, si tu me dis qu'il est surcoté, un mec qui te met 19 passes D, je crois, en Ligue 1, si je n'ai pas la saison dernière. Ou je crois en année, finale. Avec ce qu'il fait en Coupe du Monde, non, il est loin d'être surcoté, c'est un des meilleurs joueurs de la planète. Si ce n'est peut-être le meilleur joueur de la planète, bon, c'est peut-être pas le cas sur cette saison-là, mais en tout cas, c'est, il est dans le gratin. Donc ça, c'est une réalité, c'est pas être surcoté. Maintenant, voilà, à l'instant T, tu peux me dire, mais encore, je suis pas d'accord avec toi, tu pourrais me dire potentiellement que depuis le retour de la Coupe du Monde, il est surcoté, mais avec son passif, tu peux pas dire qu'il est surcoté. Non, impossible. Ça reste un très très bon joueur de football. Bah du coup, on a fait le tour sur le cas Mbappé, sur le cas sportif. Bah là on va partir sur une ligne d'anciens du Paris Saint-Germain. Je dis des anciens parce qu'ils sont là depuis pratiquement une dizaine d'années. Donc voilà, on part sur Marquinhos et Verratti. On va parler de leur performance. On va rester sur le football encore. Et donc le sujet que Nyx avait mis en place, c'était pourquoi leurs sous-performances sont devenues banales et une habitude pour tous. Qu'en penses-tu, Basto, puis après Gato du coup?
C'est vrai que ça... Verratti depuis janvier, c'est... j'ai plus de mots. Mais c'est ce qu'on dit depuis des années là aussi. Au bout d'un moment, quand ces joueurs-là sont confortés d'année en année, là les deux ont été augmentés, prolongés. Marquinhos, ça va avoir un des plus gros salaires pour un défenseur central. Verratti a été augmenté, prolongé à un moment où il est moins bien sportivement. On sait, bon, on va pas rentrer dans l'extra sportif, mais qu'a priori, il enchaîne de nouveau les sorties depuis janvier, etc. Mais ils ne sont pas mis en danger. Ils ne sont pas mis en danger. Ils ont leur place. Hier, il y a un article qui est sorti dans le Parisien qui dit que Campos a dit à son groupe que ceux qui ne seraient pas bons les 9 derniers matchs seraient mis sur la place des transferts, donc les a un peu menacés, mais étaient exemptés Mbappé, Nuno Mendes, Danilo, Donnarumma, on peut comprendre, et Marquinhos et Verratti. Donc tu vois, tu as l'impression que quoi qu'il arrive, même si Verratti et Marquinhos sont en train de sortir leur pire saison au PSG depuis qu'ils sont là, on ne leur met toujours pas aux questions. Alors, Marquis a commencé à être remis par les supporters, Verratti aussi, et je trouve qu'il y a aussi une complicité de certains supporters qui ne sont pas assez exigeants envers ces joueurs-là. Verratti a souvent été considéré comme un top 3 milieu du monde, mais non, c'est un super milieu, mais qui a aussi lâché dans les gros matchs, qui lui aussi fait partie de cette génération remontada, qui lui aussi a été souvent absent dans des moments qui comptaient, et on les a mis trop, et donc on a aussi été complices un peu de ce qui se passe maintenant, à savoir que bah maintenant ils seront pas remis en question et puis c'est tranquille. Pourquoi faire plus? Il n'y a pas besoin.
Gâteau.
Un manque d'exigence envers eux, de la direction. Un moment des supporters qui était floué quand même aussi, parce que si tu regardes bien Marquinhos, il est en difficulté depuis un an et demi, ça c'est la réalité, mais Marquinhos a gravi les échelons et monté en puissance. Donc à partir de 2021, fin 2021, c'est vrai qu'il a eu des problèmes. Ça, c'est un cas. Je pense que Marquinhos, pour rester au club, ça peut être une solution. Il a pris le brassard trop tôt, à mon avis. Je pense que c'était quand même, derrière Thiago Silva, quelqu'un qui aurait dû prendre le brassard, c'est vrai, mais ça ne lui va pas. C'est pas le leader charismatique, c'est pas un capitaine. C'est un super lieutenant, mais c'est pas un bon capitaine. C'est pas quelqu'un qui va t'amener quelque chose, qui va t'amener une équipe vers le très haut niveau, même s'il a déjà fait attention, il a fait des belles choses en tant que capitaine, il ne faut pas tout remettre en question par rapport à ça. Et je pense que l'arrivée de Donnarumma aussi derrière lui, lui a pas donné confiance, et depuis il est en perdition totale. Ça, c'est une chose. Maintenant, Marco Verratti, en fin de compte, on le disait, parce qu'il y avait d'autres journalistes connus qui le disaient, nous, on ne le disait pas forcément les supporters, mais Marco Verratti, depuis la saison 2015-2016, c'est terminé, il n'a plus progressé. Il n'a plus progressé. Et à chaque fois, on nous sort les histoires, oui, mais c'est parce qu'il ne joue plus avec Mota, il ne joue plus avec Matuidi. Il a le droit d'évoluer avec son jeu, il a le droit d'évoluer. Il a le droit d'évoluer. On ne sait plus si c'est un 8, on ne sait plus si c'est un 10, parce que Pochettino l'a utilisé en 10. Et ça a même fonctionné contre le FC Barcelone dans la victoire 4-1 là-bas au Camp Nou. Mais à la suite de ça, on fait quoi? Non seulement il est là depuis 10 ans et qu'il est absent 30% des matchs, il faut s'en rendre compte. Hein. Si je suis là depuis un an, je suis absent 30% parce que j'ai une blessure, vas-y, mais 30% c'est une durée aussi longue. C'est même pas lui dans le vestiaire, c'est lui, même pas lui le boss dans le vestiaire, alors que c'est le plus ancien du club. C'est lui qui aurait dû porter le brassard, parce que c'est lui au milieu de terrain qui aurait dû venir intégrer les jeunes petit à petit, via les départs de Matuidi, via les départs de Mota qui étaient en difficulté. C'est lui qui aurait dû intégrer les Lo Celso, tout ça, à l'époque. Mais il l'a pas fait. C'est pas un leader, c'est un joueur qui est en perdition totale, qui est dans un gros confort. Attention, c'est pas le seul responsable, parce que le club aurait dû le mettre en concurrence, comme n'importe quel joueur dans tout effectif, il y a une concurrence, saine ou malsaine peut-être, mais il y a une concurrence, et aujourd'hui, ça y est pas. Ça y est pas, tout simplement.
Pour aller plus loin, ouais, sur ces phrases des gens qui disent effectivement, hein, c'est pas la faute de Verratti, c'est la faute des nullards qu'on recrute au milieu, je dis ce qu'il dit. Mota, quand il était là, qui joue à côté de Stambouli et Matuidi, il performait, il les rendait bons. Tu sortais Mota et que c'était Verratti sur le terrain, on était obligé à chaque fois de faire rentrer Mota à la mi-temps parce qu'on était en difficulté. En Italie, on nous dit, vous avez vu avec Barella et Jorginho, Verratti, avec des grands joueurs à côté, il fait un très bon euro, c'est vrai, mais il revient en huitième de finale parce qu'il est absent en poule, et Locatelli qui était à sa place est aussi très bon. Donc c'est peut-être Jorginho et Barella qui rendaient bien aussi ce système. Un grand joueur doit rendre bon des joueurs moyens à côté. Verratti, on cherche l'excuse. À l'arrivée, la finale, il est blessé. L'année du final 8, il est absent. Il est absent quasiment tout le temps. Il est sur le banc en finale, mais il n'est pas là en demi, il n'est pas là en quart. Et la demi-finale, il n'est pas là contre Munich, ni aller, ni retour. Donc on a su faire nos meilleures performances en Ligue des Champions quand il n'était pas là. Donc il faut arrêter à chaque fois de trouver ces excuses de c'est parce que Gay est nul, parce qu'Herrera est nul, parce que Paredes c'est nul, etc., etc. Non, Verratti n'est pas intouchable.
Alors déjà, moi, je vais démystifier deux mythes. Le premier mythe, Marco Verratti est un 8. C'était peut-être le cas, mais en tout cas, c'est plus le cas. Aujourd'hui, Marco Verratti, je vous invite à regarder toutes les performances qu'il a au Paris Saint-Germain. Il occupe la position devant la défense. Alors, jusqu'à preuve du contraire, une personne qui se met devant la défense et qui s'intercale en phase offensive sur une ligne, même quand on joue à 4, sur une ligne défensive qui est limite en position de libéro, j'appelle pas ça un numéro 8, moi, j'appelle ça un numéro 6. Voilà, déjà, c'est la première chose. Donc déjà, Marco Verratti occupe une position de numéro 6 au Paris Saint-Germain depuis au moins 2017 et même avant. Lorsque Mota était là, si vous regardez bien, il y avait un jeu qui était mis en place avec eux où tu pouvais retrouver Mota en numéro 6, tu pouvais retrouver Verratti au numéro 6 et même sur de très courtes séquences, tu pouvais même retrouver Matuidi à ce poste-là. Mais c'était très rare Matuidi. Par contre, il y avait clairement Mota et Verratti qui intercalaient leur position. Donc Marco Verratti, c'est un 6 qui peut évoluer en position de numéro 8. Alors peut-être qu'il a été formé en tant que numéro 8, mais au Paris Saint-Germain, il a toujours occupé cette position-là. Donc déjà, c'est le premier mythe que j'ai envie de démystifier. Regardez son placement, regardez ses zones où il touche les ballons, vous vous rendrez compte qu'il touche, il occupe les positions d'un numéro 6.
Mota jouait même globalement en position moyenne plus haut que Verratti, hein, quand on regardait les hitmaps de l'époque. Donc,
première chose, Marco Verratti, on l'a souvent dit, c'est une tour de contrôle qui envoie des ballons. Et une tour de contrôle très basse. Marco Verratti, je ne vais pas faire le comparatif, mais tu regardes Pirlo, il a souvent occupé les mêmes zones de terrain que Marco Verratti. Et Pirlo, jusqu'à preuve du contraire, il a souvent occupé des zones de terrain où il était 6. Même si pourtant, au vu de son... Bah, je pense que Marco Verratti, c'est son gabarit qui te fait penser que c'est forcément un numéro 8. Non, les gars, un numéro 6 peut être très court et avoir distillé de très bons balais, très très bons ballons. Aujourd'hui, ce que je dis souvent, les numéros 6, c'est les nouveaux 10. C'est eux qui vont faire progresser le ballon. C'est eux, de par leur vision de jeu, lorsqu'en phase offensive, qui vont envoyer des ballons devant, qui vont... Quelque chose qu'ils faisaient très bien, c'était envoyer des longs ballons devant. Vous vous rappelez qu'il y a Mbappé qui prenait souvent la profondeur, qui recevait un ballon en haut et qui faisait de très très bonnes actions. Donc déjà, c'est la première chose. Le deuxième mythe que j'ai envie de démystifier, c'est le fait que Marco Verratti est très mal entouré. Alors ça, les gars, faut arrêter. Parce que cet argument-là, je peux le donner avec Marquinhos, je peux le donner avec Mbappé, je peux le donner avec Neymar, je peux le donner avec Messi, je peux le donner avec Donnarumma, etc. Je peux le donner avec tout le monde. Donc les histoires de « il est mal entouré », non. Si tu as un bon joueur déjà de 1, c'est toi qui tires ton collectif vers le haut, ce qu'il a fait. Notamment, je vous invite à aller revoir le match qu'il fait contre City la saison dernière, où City nous met le bouillon, mais Marco Verratti survole le match. L'année dernière, ou contre Madrid, il survole aussi le match aller. Je suis désolé, mais jusqu'à preuve du contraire, il avait les mêmes joueurs autour de lui. Donc ça, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Maintenant, là où je suis d'accord, c'est que c'est vrai qu'on est, on est dur quand même avec Verratti, mais c'est lui qui nous pousse à être dur. Moi, je suis désolé, mais son jeu est très ancien. Il n'a pas fait évoluer son jeu. C'est une furieuse classe. Et je pense que Marco Verratti, bien souvent, on passe au travers de ses performances lorsqu'il rate, lorsqu'il coule, parce que des fois, il te sort des très grosses performances. Et donc, ça te fait dire que, ah bah vous avez vu, il a sorti ce moment-là. Et la deuxième chose, c'est l'argument furieuse classe, c'est-à-dire qu'il est très, très beau à avoir joué. Mais c'est vrai que Marco Verratti, dans son jeu, bah, tu te rends compte que lorsque ça pêche pour le club, c'est pas lui qui va élever le niveau de jeu de l'équipe. Et même des fois, il va te le faire régresser, comme lorsqu'on l'a vu contre le Bayern. Voilà. Déjà, c'est la première chose. Et en plus, lui-même, il le dit, ouais, moi, je joue comme ça, je compte pas changer mon jeu, ce quand j'étais sous Laurent Blanc. Donc, en fait, au final, il y a aussi la psychologie du joueur. Maintenant, voilà, c'est vrai que souvent, on est très dur avec lui. Mais si on est très dur avec lui, c'est parce que tu es là depuis de nombreuses années. Comme l'a dit Gâteau, pour moi, normalement, dans tous les clubs, il y a une transmission qui est mise en place. Lorsque Marco Verratti est arrivé, oui, le projet était jeune. Oui, il y avait des joueurs qui n'étaient pas là depuis 25 ans, mais je suis désolé, Thiago Silva, il lui a donné un certain professionnalisme qui correspondait à ce que le Paris Saint-Germain attendait de lui. Thiago Motta lui a donné ça. Matuidi lui a donné ça. Il y a eu de nombreux joueurs qui ont pu lui transmettre ça. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses que Marco Verratti peut transmettre cette culture-là à Warren? Logiquement, est-ce que cet ancien qui est Marco Verratti peut transmettre ça à Warren? Pour le moment, moi je suis désolé, mais j'ai pas l'impression. Voilà, c'est la première chose. Maintenant, on va aller sur le cas Marquinhos. Sur le cas Marquinhos, je suis un peu plus mesuré. Parce que c'est vrai que Marquinhos, un peu avant Madrid, c'est-à-dire à partir du mois de janvier, j'avais tiré la sonnette d'alarme sur cette chaîne-là. Où justement, je trouvais qu'en début de saison, il faisait toujours des perfs incroyables et je le mettais toujours dans les tops. Et ensuite, on avait senti qu'il était un peu lassé. Et moi, j'avais dit à l'époque, je pense qu'il est un peu lassé parce qu'il doit faire aussi beaucoup de travail de l'ombre. Il doit beaucoup compenser beaucoup d'erreurs, beaucoup de lacunes, notamment celle du poste de latéral droit qui ne faisait pas les efforts de redescendre. Et tu te retrouvais avec un Marquinhos qui, même en attaque placée, devait défendre en 2 contre 1. Ce qui est totalement incroyable dans un football moderne. J'ai jamais vu ça de ma vie. Tu es en défense en bloc bas et pourtant, tu dois faire du 2 contre 1 dans ta surface de réparation. J'ai jamais vu ça. Franchement, il y a qu'au PSG, je vois ça. Maintenant, il a fait une fin de saison très compliquée. Il a fait un début de saison très compliqué. Et moi, depuis le mois de novembre, je trouve qu'il y a beaucoup de mieux avec Marquinhos. On l'a vu, moi je le dis clairement, hein, contre le Bayern cette saison, il nous a manqué Marquinhos. Le Marquinhos qui sort au milieu de terrain pour aller mettre des tampons, le Kimpembe qui sort au milieu de terrain pour aller mettre des tampons et qui peut compenser derrière par sa vitesse. Voilà, le fait qu'il sort, on ne l'a pas vu. Et c'est vrai que ça a été compliqué pour le club de réussir à se défaire des attaques munichoises. Donc non, Marquinhos, il est bien revenu. Maintenant, oui, il y a un débat qui est né et le débat, il est réel vu qu'il a fait un an de flou où il ne mettait plus un pied devant l'autre. Mais je trouve qu'il revient bien, donc on a un peu dur. Et juste pour revenir sur ce que disait Gato tout à l'heure avec Marco Verratti, c'est le même cas que Marquinhos. Je vais vous prendre une déclaration simple. Nesta, il te dit quoi lorsqu'il était au Milan AC? Au Milan AC, chaque saison, on te ramenait soit un prospect qui avait la dalle et qui voulait te prendre ta place en concurrence, ou soit un mec qui était soit plus fort que toi, ou soit du même niveau que toi pour t'obliger à élever ton niveau de jeu. Et donc, ça t'obligeait à être tout le temps en roulement, tout le temps te dire « je dois gagner ma place, ma place n'est jamais acquise ». Ça, au Paris Saint-Germain, depuis 10 ans, Marquinhos et Verratti, alors Marquinhos un peu moins, mais depuis 10 ans, mais on va dire depuis la saison 2016-2017, ces mecs-là sont dans un fauteuil, ils n'ont aucune concurrence, et dans tous les cas, même s'ils sont bidons, il n'y a personne qui va venir, qui va réussir à faire chambouler la hiérarchie. Tu vois, la concurrence, c'est une chose qui est très importante dans le football. Je vous prends l'exemple de Modric à Madrid. Modric, il a quel âge? Il a 38 ans, si je dis pas cette saison? Si je dis pas de bêtises?
37, je crois.
37 ans. Ok. Modric, depuis la saison dernière, il galope comme s'il avait 20 ans. Mais pourtant, Modric, si tu regardes bien, on lui a ramené Tchouaméni, on lui a ramené le petit Kamavinga, etc. Donc sa place, elle est souvent remise en question. Et pourtant, il performe, ce qui oblige le club à le mettre sur le terrain. Toni Kroos, il a une période de flou, de moins bien. Il est obligé de performer. Il reperforme pour conserver sa place. Au Paris Saint-Germain, tu n'as pas ça. Sur ces deux joueurs-là, ils n'ont pas de concurrence. Et là, ça pose un vrai problème parce que quand tu es dans un fauteuil, tu as moins la dalle. Parce que dans tous les cas, même si tu es bidon, il n'y a personne qui va venir bouger la hiérarchie. Et là, c'est un souci.
Et en plus, Marquinhos, en fait, la période de moins bien, il correspond quand il était au milieu de terrain avec Tourelle. Il est revenu en défense. On a un petit peu désossé le milieu de terrain. On l'avait changé avec les recrues de Gay et de l'association Les Gay, Les Paredes, tout ça. Depuis, il y a eu des petits soucis. Mais après, je pense que les gens aussi lui en veulent par rapport à son attitude et ses déclarations. Marco Verratti, son attitude envers Lionel Messi, je pense aussi qu'elle a fait en sorte que les supporters en ont un peu marre de lui et a peut-être fait ouvrir les yeux à beaucoup de gens par rapport au fait qu'il soit pas là. En réalité, il n'est pas là, Marco Verratti. Marco Verratti, son attitude contre le Bayern aussi, hein, c'est un problème. Non, c'est quelqu'un qui est là qui lui devrait parler aux supporters. C'est le plus ancien du club et je pense qu'aujourd'hui il devrait quitter le club. Moi, pour moi, si ça tient qu'à moi, il faudrait passer à autre chose. Merci pour tout ce que tu as fait. Tu as fait des très bonnes choses au club. Tu en as fait des moins bien. On va essayer de retenir le positif, mais on peut plus continuer avec toi. Je vois, Basto, comment tu vois ça?
Ouais, moi, de toute façon, c'est critique sur Verratti, ça fait plusieurs années. Il y a encore 7-8 mois, les faire, c'était compliqué dans les réponses qu'on pouvait avoir dans les lives. Maintenant, les gens sont de plus en plus d'accord, je pense.
On m'a posé une question. Ça serait l'année prochaine. Une question et je trouve intéressant d'y répondre. Barry, quel joueur clé il manquerait à Paris selon toi? Pour moi, il manque deux joueurs clés. Il manque un numéro 9 et un numéro 6. Voilà ce qui manque. Enfin, pas forcément un numéro 6 parce que Marco Verratti occupe cette position-là. En tout cas, ce qui manque, pour moi, c'est un, voire deux milieux. Il te manque un ailier qui peut occuper la position de numéro 3, occuper suppléer Kylian Mbappé. Mais surtout, pour moi, ce qui manque et ce qui est essentiel à une équipe, c'est le numéro 9. Si tu veux jouer sans 9, il faut que derrière, tu aies des joueurs de ballon exceptionnels et des joueurs qui peuvent compenser les manques des joueurs de devant lorsqu'ils perdent le ballon. Tu le vois à City, les Gundogan, Rodri, si je ne dis pas de bêtises, Rodri, ouais. Etc. Lorsqu'il y a une perte de balle, regardez l'abattage. Je vous invite, moi, je le prends souvent l'exemple de l'équipe de France de 2006. Regardez ce qui passait lorsque Zidane perdait le ballon. Lorsque Zidane perd le ballon, derrière, tu as Makelele, Vieira qui sont un rideau qui récupère tous les ballons possibles.
Et sur le banc, tu as Alou Diarra au cas où, qui est à peu Exactement. Près du même profil pour pouvoir compenser. Exactement. Moi, je vous invite à couper.
Tu as Ribéry sur les côtés aussi qui peut suppléer, etc.
Moi, je vous invite à couper l'équipe en deux. Pas horizontalement, mais verticalement. À gauche, tu as Nuno Mendes. Et au-dessus de lui, tu as Kylian Mbappé. À droite, tu as qui? Les complémentarités, elles sont où? T'as Messi plus Hakimi, on sait que les gars se parlent pas, il y a des froids, etc. Les complémentarités ne sont pas là. Et en fait, il faut faire un effectif selon déjà l'envie du coach et du directeur sportif. Est-ce que vous jouez en transition? Est-ce que vous jouez en possession? Est-ce que vous jouez en position? C'est encore un jeu plus poussé de du tiki-taka qui a été fait par Guardiola, là du côté de Manchester City. Mais comment est-ce que vous gérez le truc? Et c'est comme ça, en étudiant déjà les profils, c'est pas en amenant juste des mecs comme ça, les gars, venez au PSG, on vous donne 500 000 par mois, c'est bon. Parce que Soler, Ruiz, à la base, ce sont des bons joueurs, c'est pas des grands joueurs, c'est peut-être des bons joueurs ou des moyens plus si on veut. C'est des chapeaux 2 ou 3 peut-être, mais c'est pas des catastrophes, c'est pas des chapeaux 5. Et ils arrivent dans un bourbier. Regardez, Wanyama aussi, c'est la même chose. Donc il faut aussi structurer l'équipe, il faut avoir une réelle ossature pour pouvoir intégrer ces gens-là. C'est la présence de Zaïre Emery en titulaire en 8e de finale aller de Ligue des Champions, c'est l'incarnation de la médiocrité de notre milieu de terrain. Parce qu'un jeune homme de 16 ans, tout bon soit-il, il aurait jamais dû être là. Voilà.
Mais moi j'ai une question. Après on changera de sujet, c'est vraiment en répondant rapide. Quels sont les joueurs qui font des appels à part Kylian Mbappé et les deux latéraux? Moi, je suis désolé, dans toutes les équipes, les milieux aussi font des appels. Au Paris Saint-Germain, énormément de joueurs de ballon dans les pieds. C'est-à-dire qu'ils vont demander le ballon dans les pieds, qu'ils ne vont pas demander
les courses. Barry, de base, Ruiz, il en fait, Soler, il en faisait énormément. Ouais. Mais c'est trop statique autour, du coup, ils se mettent à ne plus en faire.
Et puis, il y a aussi le fait que les mecs de devant ne vont pas compenser. Donc, tu dois te dire, ouais, si je fais une projection et qu'on perd le ballon, je vais devoir compenser derrière. Et c'est très compliqué, ça aussi.
Ouais. Et je suis d'accord avec Gâteau sur les profils de milieu qu'on fait. Soler et Ruiz, c'est pas forcément une mauvaise idée si tu avais déjà des cadres et un milieu installé et que c'est vraiment en joueur de banc. Le problème, c'est qu'on refait, comme je dis, on refait le papier peint et on refait pas les bases depuis 4-5 mercato.
Bah écoutez les gars, on va lancer le prochain sujet. Alors là, le prochain sujet va être clivant et je pense qu'il va plaire à Basto. Selon le Parisien PSG, bien entendu, le PSG est très pessimiste pour Neymar et pense qu'il ne passerait pas la visite médicale dans un autre club. Est-il invendable? Je vous laisse répondre à cette question. Gâteau, puis Basto, je suis juste occupé pour une petite minute. Donc, je vous laisse répondre.
Tu veux y aller, Gâteau?
Non, vas-y, je te suis. Parce que c'est vrai que ce monsieur-là, il m'embête un peu.
Je vois pas comment en fait il peut être vendable, dans le sens où lui veut rester. Comme l'a dit Barry, ses blessures, maintenant je pense qu'il n'y a aucun club qui est prêt à aller mettre un salaire exorbitant avec ses blessures, sachant qu'en plus le joueur veut rester, donc il ne va pas faire de cadeau, il n'en fera pas, et sa fiabilité, hein, que ce soit 50%, lui c'est 5 ans, un peu plus de 50% de match joué depuis qu'il est au PSG, tu disais Verratti c'est 30% d'absence, Neymar c'est 50% en 6 ans, puis, quel club va aller? Il y a peut-être Chelsea qui aurait pu dans sa folie à un moment y aller, mais avec sa dernière blessure, c'est fini. On va avoir Neymar pendant 4 ans. Bon, il faut s'y faire, hein. Il faut s'y faire. Je pense que il n'y a pas d'autre solution là-dessus. On ne va pas lui rompre son contrat, ça coûte une blinde. On fera avec Neymar.
Ce qui est terrible, en fait, c'est que Neymar arrive en 2017, mais il devait déjà se faire opérer à la cheville. Oui. Il avait déjà une fragilité. S'il l'avait fait à l'époque, peut-être que ce serait pas le même joueur aujourd'hui. Ça se trouve qu'il aurait pas fait les belles choses et tout, donc voilà. Mais au-delà de la santé, déjà juste financièrement, il ne peut pas partir. Il ne peut pas partir s'il baisse pas son salaire. Et il va pas baisser son salaire. C'est pas quelqu'un qui est là pour nous arranger. Il veut faire. J'ai l'impression que il veut le mal du club. Il veut vraiment le mal du club.
Je sais pas s'il veut le mal du club, mais il est dans une espèce de sentiment de revanche quand on ne l'a pas laissé partir, et donc il ne fera pas de cadeau. Je pense que c'est pas forcément, il veut pas forcément du mal, mais il a ce côté, pas que là-dessus, mais il a ce côté un peu gamin, tu vois, qui a toujours eu le côté un peu gosse pourri gâté. Donc là-dessus, je pense que voilà, il s'est vite vexé, on lui a refusé le départ, et maintenant il fera pas de cadeau.
Ouais, c'est très difficile, et je pense que
La question que t'as eu.
c'est le dossier le plus rapide qu'on ait eu à avoir, parce que le mec, bien sûr que c'est invendable, déjà,
Mais
juste financièrement,
la
au-delà de
question c'est
sportivement.
jusqu'à quand ouais, on va quand il sera apte, on devra le mettre sur le terrain. Dans 2-3 ans, est-ce qu'on pourra commencer à mettre sur le banc ou ce sera toujours aussi ingérable?
Bah non, mais ça, au bout d'un moment, sportivement, t'as pas le droit de faire de concurrence saine. T'as pas de concurrence saine au PSG. C'est-à-dire que tu peux pas venir avec un statut de remplaçant en espérant trouver ta place de titulaire en faisant de bonnes performances. Parce que même quand tu es remplaçant, par exemple, je pense à Ekitike, évidemment, nous, il y a beaucoup de gens qui en veulent parce que il fait des posts Instagram, c'est quelqu'un qui a l'air d'être un peu perché, qui se la raconte. Et, ok, mais comment il a été intégré? Regardez les minutes jouées d'Ekitike. Ekitike se retrouve en 8e de finale retour en Ligue des Champions dans une opération impossible, là où il n'aurait jamais dû être. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas concerné. C'est aussi le coach de concerner. Il faut concerner les joueurs. Tu peux intégrer les joueurs. Tu peux te dire, t'es remplaçant, ça va être compliqué, je dois faire jeu lui d'abord. Mais t'as le droit de faire jeu 15 minutes, 15 minutes. Ah bah tiens, t'as fait deux fois 15 minutes assez bonne. La
De toute
prochaine fois,
façon,
t'es titulaire. Et tout ça. Mais.
quand tu vois, comme tu le dis au match aller, t'as Solaire qui est milieu gauche et Meri qui sont milieu droit derrière, ils disparaissent, on les revoit plus. Meri d'un coup, on le voit de moins en moins. Solaire, bon, il est blessé, mais à un moment, on l'avait plus vu. On le remet titulaire, on le revoit plus de nouveau. El Shaddai, qu'on voit juste contre Strasbourg, puis d'un coup, tu le remets contre Monaco, puis contre Munich dans les pires dispositions. C'est sur tous les joueurs, comme tu dis, t'as des. Là, on a fait un peu
Alors,
un autre sujet là-dessus, parce que Neymar.
le cas Neymar. Alors, on va recentrer.
Vas-y,
Pourquoi
à toi
Neymar
de
est
jouer le pari
invendable?
sur Neymar, là. Pour toi, vendable ou
Pourquoi
pas?
Neymar est invendable? Bah, c'est quoi? Ça va être simple. Hein. Je vais vous point par point. Première chose, salaire. 36 millions par an. Alors, il a un salaire dégressif au Paris Saint-Germain. Donc, apparemment, je crois que c'est à partir de la troisième saison que le salaire
Je
va commencer
vois.
à baisser. Mais bon, on ne sait pas jusqu'à quand il va baisser, etc. Ok, très bien. La deuxième chose, blessure. Souvent blessé. Là, on essaie de rafistoler une cheville. Les gars, arrêtez de vous inventer une vidéo. Ah, Neymar, il va revenir avec une nouvelle cheville. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'ils vont lui coudre une nouvelle cheville? Ils vont prendre une cheville d'un jeune? Ils vont lui recoudre? Non, non, les mecs. Sa cheville, les gars, une opération, c'est même pas, ça ne te garantit pas. C'est qu'une opération, tu reviens jamais à 100%. Première chose, déjà. Donc, ne rêvez pas sur l'histoire d'il va revenir complètement frais avec une nouvelle cheville. Bien sûr. Troisième chose, contrat. Il a un contrat où il a 100% de ses droits d'image au Paris Saint-Germain. Les mecs, 100% de ses droits d'image. Il n'y a qu'au Paris Saint-Germain qu'ils ont accepté une bêtise pareille, vu qu'aujourd'hui, ils ne l'ont pas donné à Mbappé. Donc ils ont su que, ah, on a fait quand même une grosse erreur avec cette histoire-là. Donc 100% de ses droits d'image, je vous laisse imaginer le degré de million qui tourne autour de ça. C'est exceptionnel et c'est démentiel au vu de ce que représente le Paris Saint-Germain et au vu de ce que représente un joueur de l'acabit de Neymar. Quatrième chose, la dimension du Paris Saint-Germain. Quand tu prends les trois autres choses que je t'ai citées, combien de clubs peuvent correspondre aujourd'hui à l'achat de Neymar? Bah, déjà, il y en a. Déjà, tu regardes dans la stature du Paris Saint-Germain, que ce soit en termes d'image, en termes de ce que ça peut te rapporter, etc. Il n'y a que les grands clubs. Et dans les grands clubs, tu le vois à City, tu le vois au Real, tu le vois où? Peut-être Barcelone, mais bon, Barcelone, ils en voudront plus, je pense, c'est mort. Tu le vois à Liverpool. Tous ces clubs-là, tu ne le vois pas là-bas. Donc il y avait Chelsea qui pouvait potentiellement revenir, peut-être le faire en tête de gondole. Je vois très mal comment tu vas le refourguer.
On
Il a
retrouverait
un
United qui
contrat.
rachète
Bah
Qatar qui
oui.
rachète United une petite
Il te
non,
fait
il faut pas.
une communication pour pouvoir jouer la Coupe du Monde dans 4 ans. Pff, je sais pas comment il va faire avec sa cheville en moins, mais bon. Je pense qu'il a quand même envie d'avoir minimum la Copa. Donc au moins pour les deux prochaines saisons, il n'est pas là. Et en plus, la dernière chose que j'ai pas dit, le contrat longue durée. Jusqu'en 2027, tu l'as, ce gars-là.
Des mecs qui viennent qui signent pour 4 ans, lui on l'a fait signer il y a déjà un an et demi. Et il l'a fait sauter en plus, il a fait activer sa clause jusqu'en 2027.
Ouais,
jusqu'en 2027.
Maintenant automatique.
Et Barry aura 30 ans, ça fait beaucoup quand même. Enfin, Barry aura,
moi, je suis désolé, bien plus. Un tel contrat, il n'y a pas 10 000 clubs qui peuvent l'acheter. Un tel contrat, c'est soit l'Arabie Saoudite qui peuvent le racheter. Et encore, même à l'Arabie Saoudite, tu n'auras pas les millions de droits à l'image que tu touches au Paris Saint-Germain. Donc, il faudra vraiment toucher un très gros billet pour compenser. Il y a quoi, l'Inter Miami, mais s'il va dans tous ces clubs là, les clubs dits exotiques, parce que j'aime pas trop dire ça, je trouve que c'est dénigrant pour ces clubs là
mais s'il refait deux ans où il se laisse encore plus, il veut pas retourner au Brésil s'amuser un peu au bout d'un moment.
Tu m'expliques si déjà au Brésil je pense pas qu'il y aura un club pour mettre autant sur Neymar, mais non, tu m'expliques si il a envie de jouer la Copa avec le Brésil, il a envie d'être encore performant, comment il pourrait aller dans ces destinations là je vois très peu de clubs qui
pourraient sélectionner Daniel Alves jusqu'au bout.
Là, il y a une communication pour nous faire comprendre que oui, vous inquiétez pas, l'opération s'est très bien passée. Là, il fait semblant, ouais, basic fit, il a la salle de sport. Carré, il travaille. D'ailleurs, il est au Brésil encore une fois. Les mecs, franchement, Neymar, il va rester. Ne rêvons pas. Neymar,
non,
il va rester.
Il sera très bon dans les paillettes à l'OM.
Comme paillettes à l'OM, il va pas partir. Donc, à part si vraiment il y a une offre qui tombe d'un chapeau à un moment, quelqu'un qui te libère de ça, et je vois très mal. Je vois pas comment Neymar pourrait partir d'un confort aussi doré, en sachant qu'en plus, il reste toujours dans une équipe où quand il est là, bah, tu ne pourras pas aller recruter un remplaçant assez performant pour justement le mettre sur le banc. Franchement, arrêtez de rêver. À part s'il fait évoluer son jeu et qu'il décide de devenir numéro 8, voire vraiment s'occuper numéro 10, il arrête de dézonner et il arrête d'aller son jeu qui vraiment, je pense, le ramène aux blessures, je vois très mal. Et puis dernière chose, moi, je ne suis pas le genre de mec à reprocher à Neymar ses blessures, parce que c'est pas de sa faute, mais ses blessures, c'est factuel, c'est un constat réel. Lorsque tu sais qu'au mois de février, tu es souvent blessé, même si c'est dû à des fractures, même si c'est dû à du jeu en face où tu te fais casser, bah c'est ça rentre dans ligne de compte. Ça fait 6 ans, tu n'as fait qu'une seule saison où tu étais là au mois de février, c'était contre le Final 8, c'était ça. Et après la saison d'après où on va en demi-finale, bah tu es blessé aussi au mois de truc, tu reviens contre le Bayern, mais tu es sur une jambe. Contre le Bayern, tu réalises une prestation exceptionnelle, mais derrière, on voit contre City que tu étais sur une jambe. C'est chaud. C'est très dur. C'est très dur. Donc, je vois pas comment Neymar pourrait partir. Sauf si le mec, il en a marre au bout d'un mois, il se dit, vas-y, c'est bon, j'en ai marre, je vais me consacrer à... J'ai envie d'être tranquille, etc., même si je perds de l'argent. Je vois très mal le joueur faire ça. Donc, Neymar, oui, il est invendable. Clairement, il est invendable. Regarde la communication du Parisien. Le club ne sait même pas si Neymar pourrait passer une visite médicale dans un autre club. Mais rendez-vous compte de l'état de sa cheville. Je crois que les gens ne se rendent pas compte. Rendez-vous compte, si le club en arrive à penser ça, rendez-vous compte de l'état catastrophique, cataclysmique dans lequel se trouve sa cheville. La seule solution, c'est qu'il n'arrive plus à enchaîner les matchs et que le club, bah, ils arrivent à casser son contrat par rapport à du médical. Et je vois très mal que ça se passe. Impossible.
Mais en plus de ça, c'est quoi la connerie du club de communiquer sur ça? Pourquoi faire ça? Pourquoi faire fuiter ça?
En fait, je pense que c'est pour anticiper le fait que Neymar va rester, pour faire comprendre aux supporters. On a essayé de le vendre, mais c'était pas possible. Puisqu'ils savent déjà que ça n'allait pas. Mais là, ils ont leur truc. Ah, oh, c'était pas possible parce que médicalement, personne ne peut prendre. Je pense qu'on est là-dedans.
Bah oui. Et après, sur le début de saison, Neymar, moi, j'ai rien à dire. Pour moi, c'est le meilleur Parisien sur le début de saison. C'est lui pour moi.
Ah, avant la Coupe du Monde, c'est lui.
Ouais, comme d'hab. Hein. Avant la Copa, avant la Coupe du Monde. Et puis, voilà.
Début de saison incroyable. Après ce truc. Donc, j'ai pas envie uniquement de tirer dessus parce que voilà, ces situations-là, c'est le club aussi qui s'est mis dedans. Hein. Voilà, moi je vais pas non plus tout remettre tous les mots du monde sur Neymar, mais comme j'ai dit, il y en a qui pensent que Neymar il joue parce qu'il a une clause dans son contrat ou parce que je sais pas, il parle à Nasser, etc. Moi je pense surtout que Neymar il joue parce que 1, t'as pas de remplaçant pour faire sortir Neymar ou Messi. 2, bah même si tu voulais ramener un remplaçant, tu n'as pas les fonds pour ramener un remplaçant qui serait assez cohérent pour bench Neymar. Et puis 3, bah, son contrat est doré, je vois pas pourquoi il partirait. Voilà. Il n'y a pas 36 000 solutions à dire. Hein. Moi, pour moi, il est invendable. Alors, là, on va passer sur le coach. On a parlé de Galtier en deuxième sujet. Là, on va passer sur le coach parce que c'est vrai que, franchement, là, depuis quelques jours, il y a vraiment une chaise musicale. Tu sens qu'il y a une chaise musicale au niveau des coachs qui va se mettre en place à la fin de la saison, comme une chaise musicale qui va se mettre en place sur les neufs. On a parlé des neufs il y a 2 jours. On va parler du coach aujourd'hui. On sait que le club, ils ont une liste de certains noms. Il y avait Conte, il y avait Enrique, il y avait Zizou, il y avait Nagelsmann aussi qui vient d'entrer vu qu'il est parti du Bayern. Et là, on va vraiment s'axer sur le dernier. Parce qu'on sait que Nagelsmann, il est mis du côté de Chelsea. Mais bon, ce matin, il y avait une info comme quoi Mourinho n'étaient pas contre un retour à Chelsea pour un troisième mandat, de ce que j'ai vu de Relevo, si je dis pas de bêtises.
Déjà, ils ont pris Lampard, Chelsea, aujourd'hui, officiellement, pour la fin de saison, donc il ne viendra pas de suite.
Ils ont pris Lampard jusqu'à l'intérim, jusqu'à la fin de saison. On sait qu'il y a eu des discussions hier avec Luis Enrique, donc il n'y a pas 36 000 coachs. Et on sait que là, apparemment, depuis ce matin, il y a des discussions qui ont été lancées avec Nagelsmann. Donc le sujet, c'était, est-ce que Nagelsmann est-il assez expérimenté pour un vestiaire comme le PSG, à l'instant T ? Vu qu'il s'est fait virer justement d'un club qui est appelé le FC Hollywood, le Bayern. Qu'en penses-tu, Gato, puis après Basto ?
Écoute, Nagelsmann, moi je dirais non. Je dirais non parce qu'il y a eu des problèmes avec le Bayern, parce qu'il y a eu des problèmes avec sa direction. On sait que nous, la direction, c'est aussi une direction qui ne plie pas beaucoup et qui faut être à son écoute absolument quasiment. Et on a testé des prospects, des entraîneurs prospects comme Tuchel, comme Unai Emery qui avait gagné un peu avant et qui n'était pas encore à ce niveau-là en termes de coaching. Moi, il me faut un chapeau 1 parce qu'on n'en peut plus de faire des tests, des expérimentations. Moi, j'aimerais, comme dit Eve, José Mourinho, pourquoi pas. Maintenant, je pense pas qu'il viendrait, mais en tout cas, Nagelsmann, moi, je ne prends pas dès lors que son style de jeu, il est encore difficilement lisible. Il s'est peut-être trop... Pour ce qu'on veut faire là, pour une refonte, il faut un truc de base. Mourinho, c'est un entraîneur avec un truc de base. Il va te poser un 3-5-2 à plat, il va pas te faire des styles de jeu trop compliqués. Il va te faire un petit 4-2-3-1 par-ci, un 4-4-2, peu importe, des systèmes simples. Même si le 3-5-2 initialement c'est pas simple, mais vu comment il le rend à Rome, ça paraît simple à faire. Et moi je pense que Nagelsmann, non, ça correspond pas au Paris Saint-Germain. On a déjà trop testé ce genre de coach là. Moi j'aimerais avoir José Mourinho. José Mourinho, il a eu des trucs comme du côté du Real Madrid très intéressants. Il a posé les bases pour la décima remportée par la suite par Carlo Ancelotti. Et il a fait vraiment des trucs très intéressants. Partout où il est passé, il a résolu énormément de problèmes. Alors nous, on a énormément de problèmes aussi, mais c'est pas avec Nagelsmann que ça va se régler. Je ne pense pas.
Basto.
Moi, j'aime bien Nagelsmann, mais c'est plus un constructeur. Il a fait des très bonnes choses à Hoffenheim et à Leipzig. Il n'y a rien à dire avec la méthode un peu à la Ralf Rangnick. On sait qu'il est issu de cette méthode-là, gegenpressing, etc. La nouvelle génération de coachs allemands. J'aime bien aussi son côté autoritaire, il n'hésite pas à se mettre devant les joueurs à Munich, ça a eu sa peau hein, à l'arrivée parce qu'il a été lâché par une partie des cadres. Maintenant, pas maintenant, pas dans ce PSG-là, dans le PSG dans 4-5 ans, quand il n'y aura plus les Neymar, quand il n'y aura peut-être plus Mbappé et tout ça, et si vraiment on a un nouveau projet qui a été construit autrement, et que Nagelsmann de son côté a continué sa carrière tranquillement, je pense que ce serait une bonne idée. Là, c'est une mauvaise idée pour lui-même, pour Nagelsmann, je pense que s'il vient dans ce Paris actuel, il risque de se brûler les ailes, ça ferait Munich puis Paris. Maintenant, je trouve que les gens sont très sévères avec leur lecture de « il n'a pas su gérer le vestiaire de Munich ». Il faut savoir que Munich, ils ont eu la peau, le vestiaire a eu la peau d'un mec comme Carlo Ancelotti. À partir du moment où tu as la peau d'un mec comme Carlo Ancelotti, qui est celui qui passe partout normalement et qui gère parfaitement son vestiaire, je ne vois pas qui il y a derrière. Ils ont tous été virés, même Flick, il leur fait gagner le quadruplé. La saison d'après, il se fait virer par les 4 qui sont sur le banc. À Munich, dès que tu as 3, 4, 5 joueurs sur le banc, ils vont voir le directeur sportif. Et ils sont allés voir Salih Amidzic, Oliver Kahn. Hop, quick. Munich, ça se passe comme ça.
Chose qui se passe aussi à Paris. Le cas Nagelsmann. Bah, en fait, moi, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. On en a parlé encore en off dans le groupe Paris Central. Nagelsmann, c'est trop tôt pour lui, je pense.
Après, normalement, c'est pas ce que tu dis. Hein. Normalement, tu dis c'est une...
Ouais, c'est cool, ouais, parce que pour faire une petite private joke, en fait, Tonton est un gros fan du travail de Nagelsmann et à chaque fois je le vanne à dire ouais, Nagelsmann est une fraude, je le fais péter un câble à chaque fois, même dans les lives aussi, je le fais péter un câble à chaque fois, donc c'est pour ça que Nagelsmann est une fraude, petite dédicace à Tonton. Mais sinon, globalement, hormis les blagues, c'est un entraîneur que j'aime beaucoup, qui est très bon dans le développement, comme tu l'as dit, Basto. Alors, c'est vrai que là, actuellement, j'ai l'impression que le PSG s'axe sur un projet comme ça. Maintenant, à court terme, c'est pas ce qui se passe. Le développement, c'est compliqué. Après, c'est toujours mieux Galtier. Hein. C'est toujours mieux Galtier en termes de jeu. Ça, c'est une réalité. Mais je pense que c'est trop tôt dans ce Paris Saint-Germain-là. Je pense qu'il va se casser les dents et qu'il va finir à la tourelle. Je pense que voilà, je pense pas que ce soit la meilleure solution. Maintenant, s'il vient, je vais pas grincer les dents. Hein. Je pense que c'est toujours mieux que Galtier. Donc voilà. Mais en termes de jeu, en termes de tactique, en termes d'intelligence, en termes de charisme et en termes de pouvoir poser ses cojones dans le vestiaire. Oui, Nagelsmann n'a rien à dire. Il a fait ses preuves. Mais comme je dis souvent, le vestiaire du Bayern, c'est un peu comme le vestiaire du Paris Saint-Germain, sauf que c'est mieux structuré. C'est mieux dans le jeu. Tu as des meilleurs joueurs. Donc forcément, ça peut camoufler un peu la poussière. Tu peux la mettre sous le tapis. Au Paris Saint-Germain, la poussière, tu as beau la mettre sur le tapis, mais il y a tellement de poussière qu'au bout d'un moment, le tapis gonfle de volume. Donc on voit la poussière. Et elle repart. Donc ça va être un peu compliqué pour lui à l'instant T. Moi, je suis d'accord avec Gâteau. Je pense qu'il faudrait un mec de la stature d'un Mourinho. Il faudrait un Zidane. Basto va un peu grincer des dents. Moi, le seul problème que j'ai avec Zidane, c'est le fait qu'il soit marseillais. Malheureusement, je suis désolé, on est parisien. C'est vrai que voilà, il a souvent clamé son amour à Marseille. Donc, ça risque de clasher un peu avec les supporters. C'est une réalité. Donc, ouais. Thiago Motta, pour moi, c'est exactement la même chose que Nagelsmann. Et encore plus bas. Parce que Thiago Motta, il a encore très peu montré de belles choses, même s'il montre de belles choses avec la Serie A, mais il est encore très jeune en tant qu'entraîneur. Donc voilà, c'est vrai que c'est encore plus tôt pour Thiago Motta. Maintenant, Thiago Motta, il a une chance, c'est qu'il connaît l'environnement PSG, il connaît l'environnement de la direction. Voilà. Mais je pense que si Nagelsmann, c'est trop tôt, Thiago Motta, c'est encore plus tôt.
Juste un petit mot sur Zidane, juste pour que je m'explique. Si on veut faire un projet jeune, Zidane, Vinicius expose quand Carlo arrive. Hein. Zidane, les jeunes, il les a plutôt fait partir. Hein. Soit ils n'ont pas performé, soit ils sont les Théo Hernandez, les Hakimi, ils sont carrément partis ailleurs. Donc je vois pas vraiment le. Même avec la Castilla, hein, il n'avait pas des résultats extraordinaires. C'est surtout que Zidane, deuxième point, au-delà de ce projet jeune, je pense, c'est mon avis, on verra si bien, ça peut être différent, je pense que c'est exactement la continuité de l'immunité diplomatique et médiatique qu'on a avec.
Après, l'avantage, c'est que c'est comme je disais lorsqu'on nous parlait d'un retour de Tourelle. Tourelle l'a dit, si je reviens, c'est avec les pleins pouvoirs. L'avantage de l'arrivée d'un Zidane, s'il vient, c'est qu'il a les pleins pouvoirs. Mourinho, pareil, c'est qu'il aura les pleins pouvoirs. Conte, arrêtez avec Antonio Conte, s'il vous plaît. Franchement, Antonio Conte, je trouve que c'est un entraîneur très surcoté. Il a fait de très belles choses, hein, c'est une réalité. Maintenant, il n'a jamais fait pas de ses steps en Ligue des Champions des équipes. Maintenant, l'avantage d'Antonio Conte, c'est que lorsqu'il part, il a réussi à mettre les bons profils de joueurs et qu'en général, l'entraîneur qui arrive après, il n'a pas beaucoup de mal à mettre en place une sauce qui peut tourner, comme Allegri à la Juventus, comme on le voit encore avec l'Inter actuellement, même si c'est un peu compliqué. Bon, avec Tottenham, de toute façon, on connaît Skull Bla. Tu peux ramener qui tu veux, dans tous les cas, à chaque fois, ça va être des bêtises. Donc voilà. Mais c'est le seul avantage que j'ai contre le côté, c'est que c'est un bâtisseur et que derrière, tu peux réutiliser son travail et mettre de nouveaux préceptes de jeu, mais tu auras des profils qui permettront de changer les préceptes de jeu. Sinon, Antonio Conte, je trouve quand même
qu'il est un peu surcoté. Il y en a un qui dit Sarri, c'est vrai que ça pourrait être très drôle, Sarri.
Pour une mentalité.
Genesio sur les réseaux, les mecs étaient premier degré, j'étais mort de rire.
Non, j'ai vu ça, je dis Paris, il est pas sérieux. Pas sérieux. Les gens se plaignent d'un Marseille, on va pas venir Lyonnais non plus. On parle d'identité quand même. Mais non, après. En fait, il y a une mentalité à changer, bien évidemment. Ça, c'est sûr. Et il faut que les gens soient un peu plus humbles. Et moi. José Mourinho, c'est le genre de gars qui va dire écoute, moi j'arrive maintenant, j'ai 60 ans, le football j'ai fait dans les années 10, j'ai fait aussi dans les années 2000 quand vous n'étiez pas grand chose, je parle pas du club, hein, je parle des dirigeants, j'ai fait tel et tel accomplissement dans des clubs où il y a eu des choses graves, parce que le Real Madrid, quand il dépassait pas les 8e, c'était grave, c'était quelque chose de très très grave, et quand il arrive, même on disait même que le jour de match, la dame de ménage était paniquée à l'idée de faire retentir la musique de la Ligue des Champions. Ce qui est quelque chose de très anormal, puisque c'est le club d'ailleurs aujourd'hui encore qui est le plus qui a le plus de Champions League avec le nombre de 14. À l'époque, il y en avait 9. Et là, franchement, j'aime beaucoup le commentaire de Franck Durand. Et là, franchement, là, honnêtement, t'amènes ce mec-là. Il va arriver, il va te poser des bases. Il va restructurer le club. C'est ce qu'on veut, de toute façon, c'est ce qu'on veut tous. Mais ça, c'est juste ça. Après, on ne dit pas qu'il va... Moi, maintenant, gagner la Ligue des Champions, si on peut la gagner par accident, on la prend, évidemment, on n'en a pas, donc forcément, oui. Mais le but, c'est d'avoir un club au moins sain et une structure. Et après, tu montes petit à petit. T'as des trucs qui vont arriver, le centre d'entraînement et tout ça. Et tu peux avoir les meilleures installations du monde. Mais si tu en fais n'importe quoi, ça ne sert à rien. C'est un problème.
Complètement d'accord avec toi. Mais en plus, l'avantage des mecs comme Zizou et Mourinho, s'ils arrivent dans ton banc, comme j'ai dit, c'est que les mecs, s'ils viennent, c'est qu'ils ont les pleins pouvoirs. Donc après, moi, je préfère qu'une personne ait les pleins pouvoirs et elle se casse la gueule comme Campos cette saison, plutôt qu'avoir un mec qui a du mal à mettre en place certaines choses et ils se disent ouais, je pars, mais en fait j'ai pas réussi à mettre ce que j'avais envie de mettre en place, tu vois. Donc moi voilà, c'est clairement ça. Et puis même des mecs comme Mourinho, on l'a vu, lorsqu'il met en place quelque chose, derrière t'as Ancelotti qui vient, il gagne. Zidane, voilà, au recrutement, il a fait quand même beaucoup d'erreurs avec Jovic, avec Hazard, etc. Mais globalement, lorsque Ancelotti arrive, il a le même effectif que Zidane. Zidane est parti en demi-finale avec cet effectif-là sur la dernière saison qu'il fait sur le banc. Carlo Ancelotti arrive, la saison d'après, il gagne la Ligue des Champions. Donc tu vois, après, il y avait des bases solides aussi à Madrid, hein, contrairement à Paris.
Après, donc, voilà. Zidane récupère aussi les bases solides de Carlo et l'équipe n'a pas trop
exactement
bougé pour le premier passage de exactement Carlo et son retour.
Mais je te rappelle aussi une chose, c'est que Zidane était l'adjoint de Carlo et Carlo l'a dit lui-même que Zidane était d'une grande aide et que c'est lui qui a parlé de certains profils lorsqu'il est adjoint, notamment Varane. C'est lui qui a poussé pour avoir ces joueurs-là. Et au final, tu te rends compte qu'il avait
pas tort. Tactiquement, celui qui faisait le boulot, c'était Bétoni. C'était un peu le Gassette blanc, tu vois. Donc si Zidane vient et que tu lui trouves pas le bon agent, mais bon, ça, on divague un peu. Mais il était très, très important, le Bétoni.
Ok. Bah écoutez, il reste une petite 5-10 minutes de live. Donc on a fait le tour. Je crois qu'on va faire 5 minutes de questions-réponses. Après, on va couper le live. Du coup, les gars, si vous avez des questions à poser, c'est le moment. On pourra y répondre. Et passons à un dernier bon moment dans la joie et la bonne humeur, en oubliant que le Paris Saint-Germain est un club qui est très mal géré. Et Gâteau, très très bon. Hein, voilà, moi, Gâteau, c'est quelqu'un avec qui je parle beaucoup du Paris Saint-Germain. Ça fait un mois qu'il devait venir dans les lives, mais bon, j'ai été pris par le temps et par des impératifs de vie. Donc, je suis très content de l'avoir. Et vous avez vu, hein, quand on vous ramène quelqu'un, c'est toujours du très lourd.
Alors, merci, on essaie.
Alors, Eve nous pose une question. Luis Enrique, qu'en pensez-vous? On fait une petite mini-phrase. Gâteau, t'en penses quoi?
Non. Ça, c'est... Si c'est pour ramener encore les mecs de la remontada de 2017, pour les adversaires pour les ramener... Non, ça va. Les gens vont encore faire des... Non, au revoir.
No comment.
Basto.
No comment. Sur Enrique, no comment. Je suis Gâteau. C'est bon. Chelsea, qui la gagne Chelsea, c'est bien. C'est un bon coach, mais non.
Luis Enrique, je suis dubitatif. En tout cas, on sait que si lui vient, il aura les pleins pouvoirs. Donc, comme j'ai dit, je préfère un mec qui se plante avec ses idées plutôt qu'avec les idées qu'on lui aura imposées. Maintenant, Luis Enrique, je pense qu'il y a des coachs qui sont sur le marché qui sont beaucoup plus intéressants que Luis Enrique. Tu en as un autre qui, pour moi, va être sur le marché des transferts s'il ne se qualifie pas en Ligue des Champions, c'est Klopp. Klopp, moi, je l'ai dit, c'est mon rêve. T'as Simeone qui sera aussi sur le marché, mais bon, Simeone, voilà. Simeone, j'aime un peu moins. Mais c'est vrai que Simeone, quand il a envie de mettre du beau jeu, il peut mettre en place. Mais c'est vrai que ses préceptes de jeu, ça me dérange. Donc je sais pas. Mais en tout cas, moi, je veux un mec qui vienne et qui puisse mettre en place des choses. S'il se casse la gueule, au moins, il aura pu faire ce qu'il a envie de faire. Plutôt qu'un mec qu'on lui aura posé certaines choses. La deuxième question, c'est un joueur qu'il faudrait impérativement aller chercher cet été. Bon, pour moi, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Mais s'il en fallait qu'un, les gars, vous pensez à qui?
C'est dur des noms comme ça. On ne connaît pas le projet, on ne connaît pas le machin. Comme tu l'as dit, il faut absolument un 9. Pour moi, il faut absolument un 9. Un milieu cadre et un défenseur central cadre. Après. Ah, Gallardo. Moi, j'aime beaucoup Gallardo. Laurent PSG nous dit, même si c'est encore un profil de coach intermédiaire qui n'est pas premier chapeau, Gallardo connaît à River Plate, pas tout à fait comparable à Paris, mais politiquement, c'est très compliqué comme club et il a su le gérer à merveille.
T'as dit qui? J'ai pas entendu, excuse-moi.
Vous avez parlé de Gallardo, je rebondis sur Gallardo, tu avais mis le com en bas. Sinon, en profil, non, j'ai pas de nom qui me vient, enfin de nom, on va dire, comme ça, parce que sinon, c'est que des noms qui ne sont pas faisables. Dans ce qu'on peut faire, on a des idées de profil, mais je vais pas donner un nom comme ça. Un neuf, okay. Un milieu, un décès, mais je sais pas, j'ai pas de nom.
Gâteau.
Bah, en fait, c'est de Mourinho, même Ancelotti ne voudra pas revenir, bien évidemment, mais moi, c'est... La gamme Mourinho, Klopp, tous ces entraîneurs-là.
On parlait d'un joueur là, frérot.
Un joueur. En fait, c'est des profils. C'est pas forcément un joueur. Ouais. C'est pas forcément un seul joueur parce que moi, j'aimerais bien avoir un 9. Il faudrait un 9 absolument. Quelqu'un qui puisse marquer. Il faut absolument un défenseur central gauche aussi parce que il faut mettre en concurrence Kimpembe plus Marquinhos aussi, et en anticipant aussi le départ de Ramos, font absolument central. Il faut des milieux de terrain combatifs. Moi, j'irai chercher Marcus Thuram, pourquoi pas, mais il faut des milieux de terrain qui...
Marcus ou Kempfrey?
Les deux même. Les deux, parce qu'il y en a un qui peut jouer en pointe, l'autre qui va aller pouvoir faire les choses correctement au milieu de terrain. Et faut les faut des gars qui soient là, qui soient combatifs, parce qu'en fait on manque physiquement en Ligue 1, on a des problèmes.
Il est tout sauf combatif, Kempf, hein, pour moi. Il est moins bon que Ruiz dans les duels cette saison encore.
Sans ballon. Je te renvoie vers les matchs de Nice, là où il est associé avec comment il s'appelle, avec l'international algérien. Il y a Hichem Boudaoui avec lui aussi.
Ouais, ils prennent Thuram.
Mais ça peut. Non, mais ça peut être
bon. Parle de la recrue qu'ils ont fait cet hiver pour l'accompagner là. Celui qui peut jouer DC est mieux.
En fait,
il a un nom imprononçable, il est très bon. Mais après, c'est mieux sous Digard, c'est sûr. Mais il y a des moments où je trouve qu'il a une nonchalance. Moi, j'ai du mal avec ce joueur. Pour moi, c'est encore un joueur qui, si tu fais un cadre. Et qui vient en complément, ok, mais si c'est lui direct ton titulaire, ça va être un problème comme les autres.
Bah moi j'aime bien aussi, bon je pense qu'il n'y en aura pas, mais il y a Mohamed Camara de Monaco. Mohamed Camara de Monaco, international malien.
Je préfère déjà Camara à Fofana à Monaco.
Oui, aussi.
Alors,
ça, c'est vrai.
Moi je vais être beaucoup plus tranché en termes d'attaquants. Pour moi, il y a trois noms que j'aime beaucoup. Osimhen, il y a Vlahovic que j'aimerais énormément avoir au Paris Saint-Germain, je vous l'ai déjà dit. Osimhen, que franchement cette saison il est exceptionnel. Maintenant Osimhen, ce qui me dérange, c'est le passif de blessure qu'il a. C'est vrai qu'il est souvent blessé. Voilà, donc ça c'est un problème. Et le dernier neuf, bah, il y avait Kolo Muani. Maintenant je trouve que Kolo Muani, dans la liste des joueurs que j'ai cités, je pense que c'est celui qui vient en dernière position. Parce qu'il est certes Mbappé compatible, comme certains ont envie de le dire. Maintenant, il est très axé sur le jeu, mais il désaxe beaucoup. Et c'est vrai que dans une équipe où il y a beaucoup de joueurs qui dézonent, bah si tu regardes bien, si tout le monde dézone, t'as plus de collectif.
Il y a un joueur que je trouve super fort. Si on n'a pas d'argent, tu vois, parce que Colomani c'est 100, Osimhen c'est 150. Il y a un joueur que j'aime beaucoup, c'est pas premier chapeau, mais je pense qu'il coûte plus 40 millions, Mitrovic.
Ouais, j'aime bien.
J'aime beaucoup ce joueur, que ce
soit en sélection. En plus, il va se donner, il va avoir la dalle.
Maintenant, je vais avoir la dalle. D'autres joueurs complètement d'accord avec Gato, Kefren Thuram, maintenant je suis d'accord avec Basto, sans ballon, il doit encore faire évoluer son jeu. Maintenant, depuis le changement de coach, on voit que c'est un profil qui est clairement offensif parce que la saison dernière, on ne savait pas encore où le mettre. Il jouait sur le côté, dans un 4-4-2 à plat. Il a pu aussi occuper la position de numéro 6 sur certaines phases de jeu et là, c'était compliqué pour lui. Là, cette saison, on le voit que c'est un profil beaucoup plus offensif. Il apporte de par ses courses, de par sa qualité de pouvoir se projeter balle au pied. Donc, il pourrait être très intéressant dans une équipe qui manque de mobilité. Maintenant, comme l'a dit Basto, pour le faire devenir titulaire à l'instant T, ça va être compliqué, mais je pense que c'est un très bon joueur d'avenir et c'est un très bon prospect à aller chercher. Il y a un autre joueur sur le côté, je vois Laurent PSG qui parle de Jonathan David. Oui, j'aime bien, mais bon, je pense qu'il faut d'autres noms un peu plus. Il y avait Ziyech qui était mis du côté du Paris Saint-Germain, mais Ziyech, il prend très peu la profondeur. Tu as un autre joueur que j'aime beaucoup, qui est lui aussi un jeune, qui a été cité du côté du Paris Saint-Germain. Et lorsqu'il avait été cité, j'étais pas contre, mais je me disais que c'était un peu une mauvaise idée parce qu'il était bench dans son équipe. C'est Bakayoko. Bakayoko qui joue au PS Eindhoven. Je trouve que c'est un ailier de percussion qui pourrait être très intéressant pour l'avenir. Il a 19 ans. Il prend la profondeur. Il est capable d'évoluer balle au pied. Et c'est vrai qu'il a cette faculté à repiquer dans l'axe. Et il a une certaine pointe de vitesse qui pourrait être très intéressant au Paris Saint-Germain. Bakayoko, voilà. Qui pourrait être très intéressant au Paris Saint-Germain au long terme. Moi, j'aime beaucoup le profil. Donc à voir, il pourra partir, mais en tout cas j'aime beaucoup. Bah, défenseur, il y a Skriniar qui va arriver, donc voilà. Et après, j'aimerais bien avoir un milieu, mais un vieux de la vieille, tu vois, de la vieille école, vraiment quelqu'un qui a du ballon, qui a de l'expérience, qui est très bon. Il y en a un qui me vient en tête et que j'aime beaucoup. Alors voilà, c'est Gundogan. Gundogan qui est libre sur le marché des transferts. Alors il est un peu vieux, mais clairement son expérience, son abattage physique et sa dalle sur le terrain. J'aime beaucoup. Riyad nous parle d'Haaland. Bah, j'espère que tu vas pouvoir poser les 250 patates sur le nom Haaland et qu'il va accepter de venir dans ce bourbier et que tu vas réussir à négocier avec City. Rashford, j'aime beaucoup, mais Rashford il s'axe côté gauche, donc tu as Kylian Mbappé à ce moment-là. Donc moi je pars du poste là, Kylian Mbappé va rester. C'est pour ça que je ne vous ai pas parlé de Léo ou de Rashford. Ouais. Après, c'est des profils très intéressants.
Moi j'aime bien, juste pour terminer vite fait, Marcus Edouard du Sporting. Qui avait fait un truc pas mal contre Arsenal en Europa League. Il peut jouer à droite, donc ça peut, voilà. Hein, puis il a 24 ans cette année. C'est peut-être le moment de grandir pour lui et arriver en Ligue 1 au moins. Pas forcément la Champions League, au moins en Ligue 1, avoir une équipe structurée pour pouvoir l'accueillir, ce serait bien. Quoi.
Après, quand tu as un budget mercato serré, Il y a un autre joueur qui pourrait être intéressant de par sa polyvalence, qui peut occuper la position d'ailier gauche, la position d'avant-centre et la position d'ailier droit. Après, j'ai du mal à le voir comme un titulaire en puissance. Il s'agit de Marcus Thuram, qui pour moi est intéressant de par sa polyvalence, etc., qui est libre. Donc en plus, avec un budget de transfert très court, très juste, ça pourrait être intéressant de l'avoir. Maintenant, j'ai du mal à le voir comme un réel titulaire au Paris Saint-Germain. Mais je peux me tromper parce qu'il réalise une bonne saison aussi du côté de Borussia, je pense. Ouais,
après Marcus, son problème, c'est que il est très irrégulier, que ce soit au cours d'une saison, c'est même ça. D'une saison à l'autre. L'année dernière, ça a été Bérésina, quoi, la saison quasi blanche. L'année d'avant, c'était pas mal. Là, c'était de nouveau très bien. Et puis, c'est moins bien depuis la Coupe du Monde. J'ai l'impression qu'il y a un...
Après... C'est ça le dernier nom que cherchait Franck M. Gonçalo Ramos, j'avais oublié lui. Je cherchais son nom, mais je l'avais oublié. Et lui, Gonçalo Ramos, pour le coup, dans les neuf que j'ai cités, pour moi, il y a Vlahovic. J'aime très bien, j'aime beaucoup le profil. Derrière, il y a Osimhen. Mais mine de rien, si tu parles de profil pur de ce qui te manque à ton équipe, pour moi, les deux premiers qu'il faut aller chercher, c'est soit Vlahovic, en deuxième Gonçalo Ramos, en troisième Osimhen et en quatrième Colomani. Parce que Gonçalo Ramos, il a une technique qui serait très intéressante au Paris Saint-Germain. Il a une faculté à prendre la profondeur qui serait très intéressante au Paris Saint-Germain. Il a un jeu de tête que le Paris Saint-Germain manque et fait défaut. Et voilà, pour moi...
C'est bête, on était tous cet été. Hein. Ça aurait été moins cher.
Ouais, mais bon. Ils n'ont pas voulu le vendre, c'est une réalité. Donc voilà, c'est les noms qui nous venaient en tête. Donc s'il y a une dernière question, on la prend, puis après on quittera le live. Donc je regarde un peu. Ouais, un bis Renato, t'as Manu Koné qui est cité du côté du Paris Saint-Germain. Maintenant, Manu Koné, c'est pareil que Kefren Thuram. Pour le moment, il est quand même irrégulier. C'est un très beau pari sur l'avenir parce que son profil est très intéressant. Sa faculté à se projeter balle au pied, son explosivité, sa manière à être très gainée sur ses appuis lorsqu'il arrive. Maintenant, j'ai du mal à le voir comme un titulaire à l'instant T.
En fait, au milieu, on ne peut plus se permettre de faire des paris. Il faut le taulier.
Il faut du solide, là. Pour le moment, il faut du solide. Il y a Kovacic aussi qui est sur le marché des transferts.
Je pense que tous les jours, tout le monde...
Et Kovacic aussi, il y a son passif de blessure qui rentre en compte aussi.
C'est vrai moins depuis quelques temps.
Moins depuis quelques temps, mais tu vois, le passif quand même. Tu sais, il y a beaucoup de joueurs qui nous ont un peu bluffé. Et puis, vas-y. Après, il y en a un dernier. Mais moi, le dernier, le problème, c'est que son passif avec le Paris Saint-Germain, il me saoule. Clairement,
Rabiot.
C'est Rabiot. Ça va pas beaucoup bien dans cette équipe-là, mais je sens pas si c'est
Moi, on avait parlé de Rabiot, mais le problème, Rabiot, le joueur, il pourrait nous aider. Il sera un titulaire indiscutable. Il vient 6 mois, s'il veut, même il est capitaine, il fait ce qu'il veut. Il peut nous aider de fou. Le problème, c'est quoi? C'est que tu as sa maman derrière. Et c'est l'entourage qui gêne. Donc ça, c'est problématique.
Tu sais, les premières saisons à... Ouais, s'il fait des excuses publiques, oui, bien sûr. Les premières saisons, lorsqu'il est à la Juventus, faut savoir que la Juventus, sur le cas Rabiot, ils étaient très catégoriques. Les médias, ils aimaient pas sa mère. Et en plus, en termes de jeu, il était inconstant, très inconstant.
Bah, il a été vu dans l'équipe flop de la Serie A sa première année.
Voilà. Et après, sur sa dernière saison, c'est vrai que sa mère, elle a été beaucoup moins relou avec la Juventus, alors que pourtant, ça correspondait au moment où la Juventus était complètement dans le flou. C'est vrai que sa mère, elle a quand même apaisé son mode de fonctionnement avec le club. Aujourd'hui, les journalistes sont très contents de lui. Maintenant, son début de saison est exceptionnel parce qu'il y avait la Coupe du Monde. Depuis le retour de la Coupe du Monde, il pêche un peu, mais il reste quand même très cohérent. Et moi, j'ai un peu cette impression de me dire que Rabiot, j'avais surtout l'impression qu'il sait qu'il est libre. Donc, il donne tout pour pouvoir trouver le meilleur club possible pour lui la saison prochaine. Et j'ai l'impression qu'il va retomber dans ses travers. J'espère pas, parce que je pense qu'il a pris quand même en maturité. Mais je le vois comme ça aussi.
Il a une place en équipe de France à sauvegarder de titulaire. Ça change aussi la donne par rapport à...
Surtout dans une équipe où tu as énormément de talent au milieu de terrain et tu peux sauter à tout moment. Tu as Kamavinga qui pousse la porte, tu as Tchouaméni qui est là, tu as N'Golo Kanté qui va peut-être revenir, en plus qui a fait un bon match avec Chelsea, mais bon, j'ai du mal à le revoir reprendre son poste au milieu de terrain. Mais bon, bref, tu vois, tu as quand même beaucoup de joueurs au milieu de terrain et je pense qu'il y en a encore qui vont éclore. Donc tu as ta place à gagner chaque année en équipe de France. Donc oui, il est obligé de maintenir un certain niveau en club pour être appelé par Didier Deschamps. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour des joueurs qu'on voulait, le tour du live. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner, activer la cloche. Je sais que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit qu'il aimerait bien avoir le planning des lives. Les gars, les lives, on les balance comme ça, tu vois. Donc, c'est mieux que vous activez la cloche comme ça. Dès que vous avez un live qui est programmé, vous recevez la notification. Donc, ça vous demande de vous abonner. Commentez pour donner votre avis dans les commentaires, pour savoir si vous êtes d'accord avec nos avis, que ce soit sur Mbappé ou autre. Commentez, on sera un plaisir de vous répondre. Au moins, ça crée de l'interaction avec vous. De toute façon, je pense qu'on va faire une FAQ là, dans pas longtemps. Pour répondre un peu à vos commentaires. Donc commentez la vidéo, commentez. Comme ça, on aura du moudre pour vous répondre en vidéo. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Basso d'avoir été là et un grand merci à Gato. Gato, qui, bah, pour moi, qui a fait une très très bonne émission. Donc merci à toi, mon frérot. On se retrouve dans l'espace comme d'hab. Et t'es la bienvenue. Hein. Si tu veux venir un jour faire un live, il n'y a pas de problème. De toute façon, je t'inviterai avec grand plaisir. Donc merci à tous et passez une bonne soirée. N'oubliez pas, ici c'est Paris, même si le bateau a tangué.
À bientôt.